18h.
On attend un peu quand même des vents à 130 km/h, donc c'est sûr qu'on a un peu de crainte plus au niveau des maisons. Après, nous, sur notre production en elle-même, on n'a pas à craindre.
L'Ouest et une partie du centre de la France menacée par la tempête Amélie. 15 départements sont à présent en vigilance orange au vent violent.
Table ronde, dessins et séances de dédicaces. Pour la première fois depuis les attentats de 2015, Charlie Hebdo est donc allé à la rencontre de ses lecteurs aujourd'hui.
Comme vous pouvez le voir, Charlie est vivant. Vivant avec une équipe jeune, renouvelée. Et donc c'est un journal qui a retrouvé sa vivacité et son dynamisme.
L'immense joie de l'Afrique du Sud qui remporte la Coupe du Monde de rugby face à l'Angleterre. Une victoire qui va au-delà de l'exploit sportif.
On a des origines différentes, des races différentes, mais nous sommes rassemblés autour d'un but et nous voulons l'atteindre. J'espère vraiment qu'on a réussi ça pour l'Afrique du Sud.
Et puis le week-end de la Toussaint, le moment de fleurir les tombes des proches disparus. Et pour respecter la tradition, les Français préfèrent toujours les chrysanthèmes.
Europe 1, écoutez le monde changer.
15 départements, donc Sophie, ce soir, des départements de l'Ouest et du Centre sont en vigilance orange face au vent violent.
La tempête Amélie va balayer la façade atlantique de la Vendée jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Elle va s'étendre également jusqu'à l'Allier et le Puy-de-Dôme. Victoire d'Hollande, les rafales devraient atteindre les 140 km/h sur les côtes au milieu de la nuit et les habitants se préparent déjà.
Oui, et c'est au milieu de la nuit, justement vers 1h, 2h du matin que la tempête Amélie devrait atteindre la côte atlantique sur le bassin d'Arcachon, là où les vents devraient être le plus fort cette nuit. Les mairies ont renforcé les digues aux sorties des plages pour éviter que l'eau ne s'engouffre dans les villages et provoque des inondations. Des tractopelles ont donc prélevé des tonnes de sable à marée basse pour renforcer justement ces barrages. Paul travaille à la cabane ostréicole du Cap Ferré. Il voit les touristes quitter le bassin d'Arcachon depuis ce matin.
Dans notre cabane, on fait de la vente à emporter d'huîtres et en fait, là, notre clientèle d'habitués commence à venir à partir de maintenant pour embarquer les huîtres sur Bordeaux. En fait, tout le monde quitte le village un peu. Ils préfèrent vivre la tempête de Bordeaux que d'ici. La presqu'île va se vider, je pense, dans les heures à venir. On attend un peu quand même des vents à 130 km/h, donc c'est sûr qu'on a un peu de crainte plus au niveau des maisons, voilà, des arbres qui tombent. Après, nous, sur notre production en elle-même, on n'a pas à craindre.
En Charente-Maritime, une vigilance vague submersion a également été déclenchée. Là aussi, les commerçants qui sont le plus proche de la mer se barricadent. Certains m'ont même confié qu'ils allaient fermer plus tôt ce soir en prévision de la tempête. À La Rochelle, tous les habitants qui ont pu rentrer leur bateau de plaisance l'ont fait. Enfin, dans tous les départements concernés par la vigilance orange, Météo France vous conseille de limiter au maximum tous vos déplacements.
Merci Victor Delande. Les perturbations à la SNCF, 8 TGV sur 10 roulent sur le réseau Atlantique ce week-end de Toussaint. Le trafic devrait être quasi normal à partir de lundi avec 9 trains sur 10.
Cet après-midi et pour la première fois depuis le terrible attentat des frères Kouachi qui avait décimé la rédaction, les journalistes de Charlie Hebdo sont allés à la rencontre de leurs lecteurs.
Une apparition sous haute surveillance à Strasbourg et un accueil très chaleureux de la part de leur public, Charlotte Bechler.
Sur scène, pas de chanteurs ni de danseurs, mais le même genre d'applaudissements. Une standing ovation et des vagues de rire pour toute l'équipe de Charlie Hebdo. Tour à tour, journaliste et dessinateur de l'hebdomadaire satirique témoigne. Pour Iss, un des survivants de l'attentat, son journal, 4 ans après, est toujours debout.
Comme vous pouvez le voir, Charlie est vivant, c'est quand même pas négligeable. Vivant avec une équipe jeune, renouvelée, et qui a plein de projets et qui est là aujourd'hui cet après-midi. Donc c'est un journal qui a retrouvé sa vivacité et son dynamisme. Voilà.
Dans la salle des centaines de Strasbourgeois, certains en sont lecteurs, d'autres sont venus par solidarité, comme Ulrike.
Nous sommes venus parce qu'à l'époque, nous sommes déjà engagés. Nous avons fait partie des dizaines de milliers de personnes qui ont affiché « Je suis Charlie », qui ont traversé la ville. Et là, on s'est dit, si on ne vient pas, l'autre camp va gagner.
Toute l'après-midi, les tables rondes étaient illustrées par des dessins projetés sur grand écran. Ils ont tous été réalisés en live par Coco et de nouvelles recrues cachées en régie. Strasbourg, Charlotte Bechler, Europe 1.
Et nous serons, Sophie, dans un instant, dans une dizaine de minutes exactement, en direct avec Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo.
Sur l'île de la Réunion, une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte. Un homme d'une vingtaine d'années est soupçonné d'avoir agressé une femme à l'arme blanche dans un commissariat de Saint-Denis de la Réunion en criant à la Akbar. Il a été désarmé avant de blesser sa victime.
Europe 1, 18h05, la suite du journal. François Claus, Sophie Tussaud.
Depuis la mi-journée, l'Afrique du Sud est donc championne du monde de rugby. Les Springboks ont battu l'Angleterre 32-12.
Et c'est la troisième fois de leur histoire qu'ils décrochent un titre mondial. Retour sur une victoire qui va bien au-delà du sport, Simon Rubin.
Depuis le stade de Yokohama jusqu'au bar de Cape Town et Johannesburg, la même joie. L'Afrique du Sud, titrée une troisième fois championne du monde, égale le record des Blacks après un match maîtrisé. Mais au-delà du sport, c'est une victoire politique. Pour la première fois de leur histoire, les Springboks étaient menés par un capitaine noir, Siya Kolisi, né en 91 dans les townships de Port Elizabeth, deux semaines avant l'abolition officielle de l'apartheid. Son parcours raconte la difficulté, encore aujourd'hui en Afrique du Sud, pour un homme noir d'atteindre les sommets, de briser le plafond de verre. Avant de soulever la coupe, il a livré un discours unificateur depuis la pelouse. On a tellement de problèmes dans notre pays, mais nous avons une telle équipe, raconte-t-il. On a des origines différentes, des races différentes, mais nous sommes rassemblés autour d'un but et nous voulons l'atteindre. J'espère vraiment qu'on a réussi ça pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud signe donc aujourd'hui une nouvelle victoire sportive, mais aussi une victoire symbolique. Jamais on n'avait compté autant de joueurs noirs chez les Springboks. Ils furent 12 à revêtir le maillot sud-africain durant cette Coupe du Monde.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Aujourd'hui est la journée mondiale contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Une journée créée par l'ONU après le meurtre il y a 6 ans de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
6 ans après, les familles des journalistes ne savent toujours pas ce qui s'est passé. Dans une lettre publiée dans Ouest France, Apolline Verlon-Raison, la fille de Claude, interpelle Emmanuel Macron et elle demande au président que la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles son père et son confrère ont été tués.
Les explications, elles ne sont pas satisfaisantes, elles ne sont pas claires. On reste dans le vague, dans le flou, on n'a aucune piste sérieuse. On nous dit déjà que c'est long, que ça va prendre du temps. Donc on est déjà à 6 ans, je pense que le temps, on l'a eu. Il est temps d'avoir une version définitive, quoi, voilà, de savoir ce qui s'est réellement passé. En tout cas, la thèse de l'enlèvement qui a mal tourné ne me satisfait pas. On n'a toujours pas été reçu par le nouveau président de la République. On sent abandonné, en fait. On a l'impression que, bon, bah voilà, oui, c'est arrivé il y a 6 ans. C'est deux journalistes parmi d'autres, quoi. Sauf que nous, on n'arrive pas à construire notre deuil, on n'arrive pas à le faire. Donc au moins déjà être reçu par Emmanuel Macron et puis ensuite de sentir son soutien, son appui pour nous avancer à refaire le fil de cette journée, quoi.
Apolline Verlon-Raison, la fille de Claude Verlon, tuée au Mali en 2013. Les Gilets jaunes réunis en assemblée à Montpellier pour décider de la suite à donner à leur mobilisation. Dans 2 semaines, le mouvement fêtera ses 1 an. Et en marge de cet anniversaire qui se profile, une étude de la revue médicale britannique Lancet révèle que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le nombre de blessures aux yeux causées par les LBD, les lanceurs de balles de défense, a fortement augmenté, alors que seulement 2 avaient été recensés en 2016. Il est passé à 25 sur la fin de l'année dernière, au début des manifestations, et 15 depuis le début de l'année.
En ce week-end de la Toussaint, vous êtes nombreux à vous rendre au cimetière pour fleurir les tombes de vos proches.
Et en cette période, une fleur, le chrysanthème. Les familles restent attachées à la tradition. Reportage de Ronan Conclin, notre correspondant à Rennes.
La fleur star, c'est le chrysanthème.
Rouge, jaune, blanc ou encore rose fuchsia, impossible de les manquer. Les chrysanthèmes de Stéphanie, fleuriste rennaise, ont une place de choix devant sa boutique. Cette année encore, elle a été dévalisée.
C'est ce que les gens demandent de plus. On a reçu 2 arrivages, il nous en reste très très peu.
Elle attend une nouvelle livraison et espère en vendre 300 d'ici dimanche. Apparu au 19e siècle pour remplacer les bougies sur les tombes, le chrysanthème reste un incontournable de la Toussaint, raconte sa collègue Alexandra.
C'est une plante fleurie qui est très colorée et qui fleurit à cette saison, qui tient bien au froid.
Des coloris appréciés et des prix abordables, c'est aussi ce qui séduit les acheteurs. Et quand on demande si le chrysanthème a de la concurrence, réponse sans appel de la fleuriste rennaise.
Non. Cyclamen, bruyère, mais c'est pas vraiment des concurrentes, elles sont complémentaires.
Indétrônable des pierres tombales, le chrysanthème pourrait à l'avenir tout de même voir ses ventes baisser avec l'augmentation des crémations. À Rennes, Ronan Conclin, Europe 1.
Merci Sophie Tussaud pour ce tour complet de l'actualité.
Bon week-end à tous avec Europe 1, il est 18h10.
Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
15 départements sont donc en alerte orange et il ne s'agit pas d'orage depuis vent violent là.
Et oui, tous ceux allant du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal jusqu'en Vendée et Pays Basque à cause de la dépression Amélie qui circule sur le proche Atlantique en se creusant. Elle atteindra le stade de tempête cette nuit. Les premières rafales tempétueuses sont attendues vers 1h à 2h du matin sur les littoraux de Vendée, de Charente-Maritime. Et puis la dépression se décalera assez rapidement vers l'est en cours de matinée de demain sur le littoral littoral, les vents resteront soutenus et dans les terres, ils perdront progressivement en intensité par l'ouest. Les rafales les plus fortes sont prévues donc sur les départements de Charente-Maritime et de Gironde, jusqu'à 140 km/h, voire très ponctuellement un petit peu plus. Dans l'intérieur des terres ainsi que sur une frange littorale des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, on attend 120 km/h. Et sur les autres départements en orange, Poitou-Charentes et Massif Central, les rafales seront plutôt de l'ordre de 90 à 110, 130 sur le relief du Massif Central. Et à noter, on l'entendait dans le journal, qu'une vigilance vague submersion de niveau jaune est activée aussi pour une vaste partie sud du littoral atlantique, ainsi que pour certaines portions du littoral méditerranéen d'ailleurs.
Donc attention, hein, quand il y a la tentation de la balade au bord de l'eau, là au bord de la Méditerranée ou de l'Atlantique, il faudra être vigilant ce week-end.
À suivre, François Claus.
Direction Strasbourg, nous serons avec le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Billard.
18h13, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, avec votre premier invité, François Claus.
Bonsoir Gérard Billard.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. Vous êtes rédacteur en chef à Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui a accepté pour la première fois depuis le funeste attentat du 7 janvier 2015 de participer aujourd'hui collectivement, la rédaction, les caricaturistes, à un grand forum à Strasbourg pour aller à la rencontre des lecteurs et participer à ces débats sur la démocratie. Un petit mot peut-être tout d'abord, Gérard Billard, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cet après-midi, ces rencontres?
Ça a été vraiment très, très agréable, très chaleureux. On s'est aperçu avec grand plaisir que les gens qui avaient rempli l'Opéra de Strasbourg étaient venus nous voir, nous soutenir très chaleureusement. Tout au long des tables rondes, des trois tables rondes qu'il y a eu, on a pu dire ce qu'on avait envie de dire, le message qu'on voulait faire passer sur les thèmes qui étaient abordés.
Allez-y, le message principal.
Il n'y a pas un message principal, alors ça c'est la manie des...
Je sais, mais voilà, quand je dis un, allez-y plus largement.
Voilà, résumez-moi Proust, vous avez une minute.
Oui, c'est ce que disait Woody Allen, j'ai appris les lectures de techniques rapides, je lis Guerre et Paix en une heure, ça parle de la Russie.
Voilà.
Bon. Non, mais donc, il était pour vous important d'aller défendre une forme de liberté, une forme de manière d'être dans la presse et de s'attaquer à tous les sujets, si on veut s'attaquer à tous les sujets, bref, d'être Charlie, ce qu'on avait peut-être un petit peu oublié.
Oui, c'était d'autant plus important que cette réunion quand même où on vient parler de démocratie, on vient parler de liberté d'expression, pour venir faire ce débat-là, on est obligé d'avoir un dispositif de sécurité très conséquent, alors que nous sommes en France en 2015, dans une démocratie, la liberté d'expression existe, y est défendue. La preuve, puisque ce sont les pouvoirs publics qui nous protègent aujourd'hui. Donc le fait que ce débat doive se tenir sous protection devrait interroger beaucoup plus que ça l'interroge dans les médias aujourd'hui et chez les intellectuels et y compris chez les citoyens.
Gérard Billard, on avait l'impression que le poids que portait Charlie sur ses épaules était un petit peu lourd. Est-ce que c'est ça qui a été difficile à gérer pendant un peu plus de 4 ans et qu'aujourd'hui, le besoin d'expression d'une forme de liberté était là trop fort dans la rédaction de Charlie pour ne pas aller l'exprimer à Strasbourg?
Disons que c'est pas tout à fait ça. Il a fallu d'abord, après 2015, reconstruire un journal avec les gens qui étaient encore là. Avec ceux qui voulaient bien rester, avec ceux qui voulaient absolument rester, pour qui il n'était absolument pas question d'arrêter. Et puis avec des nouveaux dessinateurs, des nouvelles dessinatrices, des nouveaux journalistes. Donc il fallait reconstruire une équipe et une équipe qui puisse, qui tienne debout, qui soit cohérente. Donc c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on est une rédaction qui est vivante. On fait un journal qui est dynamique, je pense, qui est toujours en perpétuel mouvement, mais c'est l'histoire de Charlie depuis sa création, depuis 50 ans. Donc c'était ça d'abord, c'était la priorité, elle était là. Après, c'est vrai que c'était compliqué de faire sortir toute la rédaction de Charlie. Enfin, en tout cas, sa majeure partie hors les murs de la rédaction, sachant que les murs de la rédaction sont désormais très épais.
Et très protégés, et que les conditions de tenue étaient particulières. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Gérard Billard, qu'à un moment donné, cet emblème « Je suis Charlie » a été porté par des gens qui n'avaient pas forcément toute la philosophie de Charlie? On le voit apparaître avec de nouveau ces polémiques autour de votre dernière une, où on voit Emmanuel Macron entouré de femmes voilées, République islamique en France, ce n'est pas mon affaire, rebondissant de manière ironique sur la phrase du président de la République dans Valeurs Actuelles. On voit que ça suscite de nouveau des passions, du débat, alors que j'allais dire, il n'y a pas plus Charlie que cette couverture-là.
Bah oui, mais alors le Je suis Charlie, c'était pratiquement incontournable, à quelques exceptions près, mais tout le monde était forcément Charlie après le 7 janvier. Après les polémiques qui réapparaissent, elles ne réapparaissent pas, elles n'ont jamais disparu, elles ont toujours été là, et elles étaient là avant janvier 2015. Elles étaient là en 2006 quand on a publié les caricatures du Yélan Posten de Mahomet. Elles étaient là quand il y a eu les incendies des locaux en 2011. Et elles étaient là aussi en 2015. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accélération et il y a une exacerbation de ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, on a l'impression que c'est de plus en plus sensible. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus seulement. On nous disait avant, il faut pas dessiner Mahomet. Aujourd'hui, il faut pas dessiner un barbu. Il faut pas dessiner une femme voilée. On a l'impression que, alors que les femmes voilées ne représentent pas tout l'islam.
Ce qui rend le combat d'autant plus légitime, peut-être, Gérard Billard. On voit la polémique qu'il y a eu également lorsque le New York Times avait décidé de reculer et d'abandonner les caricatures. Ce débat et cette présence de Charlie à Strasbourg étaient d'autant plus vital dans ce qu'est ce contexte-là, finalement presque 5 ans après l'attentat.
Oui, parce que la question du New York Times qui décide d'abandonner, de renoncer au dessin de presse en s'appuyant sur l'argument d'un dessin que la direction juge antisémite. D'ailleurs, elle ne le jugeait pas au départ, puisqu'elle l'a publié, mais l'opinion a jugé que ce dessin était antisémite et a déclenché une polémique. Donc, la direction du New York Times a sauté sur cette occasion pour dire « on supprime le dessin ». En disant ça, elle a dit que le problème, c'était pas l'antisémitisme supposé du dessin, le problème, c'était le dessin, c'était le dessin en soi. Parce que le dessin de presse, la caricature, c'est des ennuis, c'est des polémiques, c'est des emmerdements, c'est des vagues, c'est au fond ce pourquoi on devrait faire des journaux, c'est-à-dire c'est pour créer du débat. C'est pour justement créer des polémiques. Or, aujourd'hui, les journaux et une bonne partie des médias, en règle générale, sont absolument, c'est même plus frileux, c'est-à-dire sont absolument peureux sur ces questions-là.
Il y aurait une forme de soumission, pour reprendre le titre d'un auteur que n'appréciez pas forcément beaucoup à Charlie, on l'a compris. Votre prochaine une, Gérard Billard, ce sera sur ces rencontres de Strasbourg?
Ça y sera en quelque sorte lié, parce que nous préparons pour mercredi un numéro un petit peu spécial, dont la thématique ce sera « Vivre sans Dieu ». Voilà, donc
mais vivre donc, avec Charlie, donc.
Et vivre avec Charlie.
Merci beaucoup, Gérard Billard, d'avoir été en direct sur Europe 1, et longue vie à Charlie. On a compris que le combat et le match étaient en cours.
Merci.
Il est 18h21, François Claus. C'est l'heure du Journal des Sports.
Et le Journal des Sports, c'est avec Jean-François Pérez, au sommaire d'une très riche actualité sportive ce week-end, Jean-François.
Le foot et la réaction attendue de l'OM après les derniers matchs inquiétants des derniers jours. Les Marseillais accueillent Lille, on va au Vélodrome dans un instant. Le tennis et pas de Nadal Djokovic en finale à Bercy. L'Espagnol a déclaré forfait avant sa demi. Christophe Lamar en direct et puis retour sur le troisième sacre de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde de rugby.
On commence donc par le football avec la suite de la 12e journée de L1.
Direction Marseille donc, où l'OM reçoit le LOSC, l'actuel 3e du championnat, pas forcément le meilleur adversaire pour se relancer après la gifle à Paris et l'élimination en Coupe de la Ligue à Monaco. C'est la mi-temps depuis quelques instants. Bonsoir Stéphane Frangy.
Bonsoir à tous.
Où en est-on ?
0-0, score nul et vierge, deux équipes qui se neutralisent. Bien sûr, on a vu de l'envie côté marseillais, ce qui leur a été reproché hein, par leur entraîneur André Villas-Boas, qui avait parlé de première mi-temps honteuse hein, à Monaco cette semaine. Il y a de l'envie, oui, mais ça reste encore brouillon. On le voit beaucoup sur les coups de pied arrêtés qui sont assez mal joués. Quelques fébrilités défensives. On l'a vu, Douye Tsaletatsar tenter une passe en retrait pour Mandanda qui a fini tout simplement en dehors en corner. Et ils peuvent se retrouver parfois sous pression, même s'ils ont mis le pied sur le ballon. Les Marseillais, allez, un petit coup de frisson quand Bounassar a trouvé le poteau sur une frappe à la 24e minute. Mais il a été signalé de toute façon hors jeu. Après coup, en face, on a des Lillois qui tentent de jouer le coup, de faire parler leur vitesse. On essaye de trouver notamment Loïc Rémy à la pointe de cette attaque, mais ils n'ont tenté aucun tir tout simplement, les Lillois, même s'il y a eu un frisson tout à l'heure, et ce centre d'Iconé de la gauche qui est passé devant Loïc Rémy, devant Célic, qui n'ont pas pu reprendre cette balle à bout portant devant le but de Steve Mandanda. Il faudra proposer un peu plus en seconde mi-temps pour essayer de débloquer ce compteur, mais en tout cas l'envie est là pour ces Marseillais qui comptent notamment sur le retour de Alvaro González en défense qui apporte sa grinta, zéro partout à la position au Vélodrome.
Merci Stéphane, on se retrouvera à 19h pour la fin du match. Ce soir le multiplex, bien sûr, 20h sur Europe 1. Lyon se déplace à Toulouse avant de recevoir Benfica en Ligue des Champions. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer notre soirée spéciale mardi 20h-23h, soirée autour de Lyon-Benfica. Les autres affiches ce soir: Nîmes reçoit Rennes, Amiens-Brest, Angers-Strasbourg et Metz-Montpellier. Je vous rappelle également qu'hier soir le Paris Saint-Germain a été battu à Dijon 2-1, les Parisiens qui restent leaders avant d'accueillir Bruges mercredi en Ligue des Champions.
Alors Jean-François, le PSG, il en sera question ce soir dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir François.
Je vous ferai la passe tout à l'heure vers 20h. Bon, question toute simple, Lionel, ils atomisent Marseille, ridiculisent en 40 minutes et ils perdent contre la Lanterne Rouge quelques jours après. Est-ce qu'ils respectent le championnat ?
Non. On en parlera ce soir dans nos grands débats, évidemment, autour de nos experts, au cœur du multiplex. Mais en effet, le Paris Saint-Germain qui aligne en plus une équipe digne de la Ligue des Champions contre Dijon, Lanterne Rouge de la Ligue 1, battu 2-1. Après avoir atomisé Marseille, en effet, bien tout simplement, les Parisiens choisissent leur match. Et même l'entraîneur de Dijon l'a reconnu, il a trouvé que les Parisiens jouaient en solo, qu'ils avaient été suffisants. Alors Dijon, bien sûr, en a profité, mais très clairement, c'est un non-respect de la Ligue 1. L'objectif du Paris Saint-Germain, on le sait, c'est la Ligue des Champions. Et puis, un ou deux matchs par-ci, par-là, Marseille en fait partie. Troisième défaite,
ça fait
un petit peu désordre et ça fait un peu tâche, effectivement, dans le bilan, ce que sera le bilan du futur champion de France, parce que le futur champion de France de Ligue 1 sera le Paris Saint-Germain.
On attend avec impatience les réactions de vos consultants autour de vous jusqu'à 23h. C'est évidemment Europe 1 Sport. Jean-François, le reste de l'actualité foot.
En bref, il y avait un choc en Ligue 2 cet après-midi, victoire de Lens sur Lorient 1-0, les Lensois qui prennent la tête du classement. En Allemagne, énorme gifle pour le Bayern Munich, battu 5-1 par l'Eintracht de Francfort. Dans quelques instants, 30 ans après la chute du mur, derby historique entre les deux clubs de Berlin, l'Union, l'ancien club de l'Est face au Hertha, figure de l'Ouest. C'est une grande première en Bundesliga.
Alors on va passer au tennis, et alors un véritable coup de théâtre au Master de Bercy. Tout le monde attendait Rafael Djokovic, ben non.
Eh non, il y aura juste Djoko qui a gagné en costaud et en 2-7 face au Bulgare Dimitrov 7-6-6-4. Djoko, c'est bien sûr Novak Djokovic. Quant à Rafael Nadal, c'est rare chez lui. Il a donc abandonné avant son match face au Canadien Denis Shapovalov. Bonsoir Christophe Lamar.
Bonsoir.
Que s'est-il passé ?
Il est 16h35 lorsque le maître de cérémonie ici à Bercy prend la parole. Il faut imaginer le brouhaha qui règne à ce moment-là dans la salle. Les gens discutent, boivent un verre ou mangent un morceau. Nous sommes désolés de vous l'annoncer. Raphaël Nadal doit déclarer forfait, dit le speaker. Le bruit cesse tout d'un coup. Chacun est suspendu aux explications. Elles viennent une demi-heure plus tard en conférence de presse. Raphaël Nadal a ressenti une gêne aux abdominaux ce matin à l'échauffement alors qu'il bouclait une série de services. Les examens n'ont pas été très rassurants. L'Espagnol n'a pas voulu prendre de risques et va maintenant rentrer chez lui à Majorque. aujourd'hui ou demain pour se reposer et faire le point. Il n'a pas encore renoncé au Masters de Londres, mais il est clair que ce forfait vient assombrir sa fin de saison. À Bercy, il pouvait enfin envisager de remporter un tournoi qui manque à son palmarès, mais au-delà d'un 36e titre en Masters 1000, c'est la place de numéro 1 mondial en fin d'année qui risque de lui échapper.
Voilà, out Nadal, merci Christophe. Et finale Djokovic, chapeau Valoff. Demain à 15h, du coup, mon fils va peut-être jouer les Masters. Il était deuxième remplaçant, il se retrouve premier remplaçant désormais si jamais Nadal devait déclarer forfait.
À suivre donc, rugby, on attendait l'Angleterre, eh bien non, c'est l'Afrique du Sud qui est championne du monde.
Absolument, comme quoi il ne suffisait pas de battre les All Blacks pour remporter la Coupe du Monde. Troisième sacre pour la nation arc-en-ciel face à une Angleterre dépassée dans tous les domaines. Score final 32-12, un alliage idéal de puissance chez les avants et de talent avec notamment les deux essais des ailiers, Mapimpi et Colbé. Pour notre consultant Eric Blanc, les meilleurs ont gagné.
Engagé, enragé, il lâchait rien, beaucoup de jeux au pied, une très bonne mêlée, une conquête avec un état d'esprit remarquable, discipliné. Et c'est une équipe qui a aussi du talent parce qu'elle marque deux essais en bout de ligne avec des joueurs formidables, dont le dernier essai par Colby. Ce trois carrés, le Zébulon, le Peter Pan toulousain qui est allé, je dirais, clôturer cette grande victoire sud-africaine.
Voilà Eric Blanc avec Simon Rubin, les Springboks qui défendront donc leur titre dans 4 ans lors de la prochaine Coupe du Monde. C'est en
France.
Absolument.
Et on verra si l'équipe de France qui a un petit,
oui, sera un petit peu plus au niveau cette fois.
Un petit peu renaissante sera épanouie dans 4 ans. À suivre donc. Merci Jean-François Pérez.
Tout à l'heure.
Et à suivre sur Europe 1, l'essentiel de l'info de ce samedi 2 novembre. Il y aura les prévisions aussi, les prévisions météo de Valérie Darmon. Et puis on refait l'actu, François.
Et oui, l'actu, elle a été très économique. Hein. Un mariage, celui de PSA et de Fiat. Un divorce, la SNCF et ses usagers. Dans un instant. Europe 1.
Il est 18h30 et jusqu'à 20h, vous écoutez François Claus, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Et avec le rappel des grands titres de l'actualité, bonsoir Sophie Echen.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Météo France place 15 départements en vigilance orange à l'approche de la tempête Amélie, une zone qui s'étend désormais de la Vendée à l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Vigilance jaune, vague, submersion également sur le littoral ouest. La Turquie menace de renvoyer des djihadistes dans leur pays. Des combattants de l'État islamique qui avaient fui pendant l'offensive contre les Kurdes. Le ministre de l'Intérieur turc estime que les pays européens laissent la Turquie s'occuper seule de ses prisonniers. Des Pakistanais retrouvés à l'arrière d'un camion sur l'autoroute A8 dans les Alpes-Maritimes. 31 personnes, dont 3 mineurs d'une quinzaine d'années. Ils ont tous été remis aux autorités italiennes. Le chauffeur du poids lourd a été placé en garde à vue. Les Gilets jaunes réunis à Montpellier aujourd'hui pour discuter de l'avenir du mouvement. Ils veulent donner un nouveau souffle à la mobilisation alors que celle-ci fêtera son premier anniversaire dans 2 semaines. Et puis 9 TGV sur 10 circuleront sur l'axe atlantique à partir de lundi. Une annonce de la SNCF qui vise un retour à la normale la semaine suivante. Demain, il y aura toujours 8 TGV sur 10 sur cet axe qui relie Paris à la Bretagne, au Pays de Loire et au sud-ouest de la France.
Merci Sophie Echen. Valérie Darmon, Sophie nous disait à l'instant, attention, vague submersion, attention au vent ce soir, la vigilance orange, et demain, ça continue à souffler.
Ah ben, oui, effectivement, le vent qui se renforce même hein, nettement de la Vendée jusqu'au Pays Basque, avec des rafales de 120 à 140 km/h près des côtes et jusqu'à 100 à l'intérieur des terres. En Languedoc-Roussillon aussi, les rafales qui vont atteindre 100 à 110 km/h. Et sur le Massif central, le vent qui souffle à plus de 100 là aussi, et donc ces 15 départements sont placés en vigilance vent violent. Du côté du ciel, de la Bretagne au Pays de la Loire, en descendant jusqu'au département des Landes, les pluies soutenues du début de matinée s'estomperont l'après-midi, mais la couverture nuageuse va rester très dense. Sur les reliefs pyrénéens et alpins, les nuages sont omniprésents aussi et les pluies seront de plus en plus soutenues. Et la limite pluie-neige s'abaissera aux alentours de 1800 mètres sur les reliefs demain soir.
Et ce qui est pas mal pour les vacances de février, la fameuse sous-couche.
Oui, on va déjà passer les
temps. C'est en novembre pour la neige. Ben oui, c'est pour donner une bonne nouvelle au milieu du vent, de la pluie.
La douceur.
Voilà.
La température reste douce.
La douce Valérie Darmon, merci.
Et maintenant, on refait l'actu sur Europe 1 avec vous, François Claus.
Et cette actu, Marlène, a été très économique cette semaine et c'est pourquoi nous sommes heureux pour la décrypter d'accueillir ce soir sur Europe 1 Pascal Perry. Bonsoir.
Bonsoir.
Pascal Perry, dont on apprécie les décryptages quotidiens chez nos confrères de LCI, Périscope, de 16h à 17h tous les soirs, auteur de 2 livres qui sont au cœur des problématiques qu'on va évoquer dans quelques instants. Le premier, retraite. Au pluriel, virgule, la dernière chance, c'est aux éditions de l'Archipel. Et le second, SNCF, virgule, un scandale français, aux éditions Erol. Pascal Perry, nous étions mercredi matin sur Europe 1, il était 7h40, et Mathieu Béliard reçoit Rachid en studio. Il est l'un de ces 200 grévistes qui paralysent quasiment tout l'ouest de la France, et il s'explique au micro d'Europe 1.
La grève aujourd'hui, ça ne paye plus. Nous, on a souhaité que ce mouvement ne soit pas syndiqué, ne soit pas pris par les syndicats. On a souhaité que ce soit un mouvement qui vienne de la base et qui soit géré localement. Cependant, on se rend compte que voilà, personne ne veut nous écouter. Et la preuve est que hier, on s'est déplacé jusqu'à Saint-Denis pour voir Madame Picard. Mais on a vu quoi? On a vu qu'il y a une
qui dirige la TGV.
Voilà. Personne n'a voulu nous recevoir.
Rachid, une dernière question. Vous gagnez combien?
Moi, je gagne 1700 euros après 16 ans de travail, sachant que je fais du 3-8. Donc, je travaille de nuit et je travaille les week-ends.
10 minutes plus tard, Pascal Perry, sur l'antenne d'Europe 1, Guillaume Pepy, encore président de la SNCF pour quelques heures, était à l'écoute d'Europe 1. Il réagit immédiatement.
Il n'y a pas de crise sociale à la SNCF. 95% des trains circulent. Je sais qu'il y a des inquiétudes parmi le personnel, parce que la SNCF est en train de se transformer profondément pour préparer la concurrence qui arrive dès l'année prochaine. Et c'est très simple. Quand il y aura des appels d'offres, il faudra que la SNCF gagne ces appels d'offres. Mais la seule réponse possible à ces inquiétudes, c'est la porte ouverte et c'est le dialogue.
La porte ouverte, le dialogue, dit le président de la SNCF. Personne ne veut nous écouter, disait ce gréviste non syndiqué. Que se passe-t-il à la SNCF, Pascal Perry?
C'est une entreprise qui a encaissé des chocs significatifs. On a un peu changé le cours de son histoire, en réalité. D'abord, on a changé le statut des cheminots. C'est un mauvais souvenir dans l'esprit du corps social de la SNCF.
Parce printemps 2018, on le
c'était
rappelle.
2018, c'est tout récent. En réalité, le statut incarnait, au fond, à la fois l'entreprise et son contrat de confiance avec le pays. On l'a changé. La SNCF est engagée aujourd'hui dans la concurrence. Elle s'y prépare. Je pense personnellement qu'elle a beaucoup plus d'atouts qu'elle ne l'imagine pour affronter la concurrence. Et puis, il y a des tensions. C'est vrai que c'est une entreprise qui doit se transformer, puisque le marché change. Elle doit elle-même se transformer. Elle doit gagner de la productivité, notamment. Souvent, ça se fait dans de mauvaises conditions. Vous savez, à la SNCF, il y a un dirigeant qui est très emblématique, qu'on écoute à la radio, sur Europe 1, qu'on regarde à la télévision. Et puis, il y a une pyramide un peu napoléonienne, très hiérarchique dans l'entreprise et peut-être une crise du caporalisme dans certains cas. Ce qui fait qu'en réalité, entre le discours, qui est un discours de modernisation, et je crois que c'est absolument nécessaire, et puisque vivent les agents à l'intérieur de l'entreprise, peut-être aussi le lien qu'ils ont avec les Français, qui s'est peu à peu décousu, il y a un grand écart, et l'enjeu de Jean-Pierre Farandou, qui est le nouveau président depuis hier maintenant, qui a pris les rênes de la SNCF, c'est tout à la fois d'engager l'entreprise dans la voie de la concurrence. Et une fois encore, je pense qu'il y a une vraie tradition, un vrai savoir-faire. Il y a de l'ingénierie à la SNCF. Et en même temps, de renouer le fil du dialogue, un dialogue un peu plus souple, un peu plus horizontal dans l'entreprise. Mais il y a une réponse majeure qui a été apportée, qu'on oublie. L'État reprend 35 milliards d'euros des 50 milliards d'euros de la dette. Ça, c'est un vrai geste de confiance. Et ça impose à l'entreprise de s'adapter au nouveau marché. D'un côté, un secteur qui est très concurrentiel, les grandes lignes TGV. Il y a des lignes d'aménagement du territoire qu'il faut absolument maintenir en oubliant complètement la logique de rentabilité. Et puis, il y a l'essentiel, le transport de proximité. 80% des trains circulent chaque jour en Île-de-France. C'est là que se trouve l'essentiel du marché. Si on peut parler de marché, des usagers du transport. On y met 45 milliards d'euros sur 10 ans pour rénover le réseau. Là aussi, il y a quand même un engagement qui est très sérieux. Donc oui, on peut faire vivre ensemble une logique concurrentielle. Après tout, j'avais envie de vous dire, le train, il est déjà en concurrence avec l'avion, avec l'autobus, avec la voiture. Donc il y a une concurrence intermodale, il y aura maintenant une concurrence intramodale. Je pense que les deux, la logique concurrentielle d'un côté, la logique de service public, peuvent vivre ensemble.
Nous sommes le lendemain sur l'antenne d'Europe 1, Pascal Perry. On apprend ce matin-là un grand mariage. Voilà que PSA d'un côté, Peugeot, Citroën, Opel, annonce son rapprochement avec Fiat, Chrysler, Jeep. Invitée d'Europe 1, Madame Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État au ministère de l'Économie, elle commente immédiatement la nouvelle.
Ça peut être une très bonne nouvelle parce que ça crée effectivement le quatrième acteur mondial. Donc ça renforce la solidité du groupe PSA. Mais nous, ce que nous voyons, c'est que les constructeurs français aujourd'hui ont sorti leur épingle du jeu à un moment où vous avez une transformation de l'industrie automobile qui est majeure, non seulement l'électrification, mais également la voiture autonome. Et que pour mener ces combats, il faut être gros pour pouvoir faire des gros investissements.
Cette vision d'une industrie française automobile florissante et quelque peu tempérée, même si Europe 1 recueillera des témoignages d'ouvriers de Sochaux très favorables à l'idée d'aller conquérir l'Amérique, mais l'un des délégués CGT de Sochaux rappelle la réalité.
Bien sûr que ça peut être intéressant, mais à quelles conditions? À quel prix? À quel prix pour nous, ouvriers? On l'a vu avec la fusion d'Opel. Aujourd'hui, ça se met en place, il y a des doublons, donc on essaye de faire partir les techniciens de la R&D. Nous, ça nous inquiète. Et là, on voit très bien la stratégie de Carlos Tavares, c'est-à-dire faire plus de voitures, toujours plus de voitures, avec moins de personnel.
Faire plus de voitures avec moins de personnel, Pascal Perrier, est-ce que c'est une logique inéluctable?
Ah oui, c'est un enjeu capital. C'est l'enjeu de la productivité. Ce délégué CGT doit savoir que le rachat d'Opel a été tout bénéfice pour Peugeot. Les Opel sont équipés aujourd'hui en grande partie avec des moteurs Peugeot. Où sont-elles assemblées, où sont-elles fabriquées? À côté de Rennes. L'emploi en France n'a pas souffert du rachat d'Opel par Peugeot. Et c'est vrai qu'au fond, il y a un enjeu de taille critique qui est absolument décisif. C'est une industrie qui change complètement. On passe du moteur à explosion au moteur hybride, on va vers l'électrification. Ça requiert deux choses et ça pose un problème. Ça requiert d'abord du capital financier, parce que c'est un coût d'investissement qui est très élevé. Ça requiert aussi des connaissances, un savoir-faire qu'il faut absolument acquérir, consolider. À ce jour, Fiat, on va dire les choses sans être désagréable avec nos amis italiens, c'est une coquille vide. Il n'y a plus de recherche industrielle. Le deuxième élément qui me paraît décisif, c'est que dans la voiture électrique, la marge des constructeurs sera complètement différente. Elle va beaucoup baisser. Donc tout le monde comprendra qu'il faut se situer dans une logique de quantité pour compenser les effets de transition entre le moteur à explosion et le moteur électrique. Donc oui, en effet, Peugeot a tout à gagner dans ce rapprochement avec Fiat. Je dirais même que ça peut sauver Fiat, ça peut aussi ouvrir deux marchés qui sont importants pour Peugeot. D'une part, le marché américain. D'autre part, le marché du 4x4, le marché de la voiture ultra premium, sur lequel Peugeot est encore assez peu présent.
Merci beaucoup, Pascal Perry, de nous avoir éclairé. Je renvoie donc à vos deux ouvrages. Retraite, la dernière chance. On aura l'occasion de reparler d'ici le 5 décembre aux éditions L'Archipel. Et puis, si vos commentaires sur la SNCF vous ont intéressé, allez plus au fond avec SNCF, un scandale français aux éditions Erol. Merci Pascal Perry.
Bonne soirée.
Et dans un instant, dans le Grand Journal du Soir, François Claus, l'interview découverte avec une femme étonnante.
Emma Becker, elle s'appelle, elle est écrivaine et elle a été, je reprends ses mots à elle, pute pendant 2 ans, elle raconte. Mais ce n'est pas un récit, c'est un roman et un très beau roman. Il aura peut-être demain le prix Renaudot.
La suite du Grand Journal sur Europe 1, il est maintenant 18h43, François Claus.
L'heure de notre interview découverte, comme tous les week-ends, et quelle découverte cette semaine. Elle est serveuse de café le matin, elle est écrivaine toute la journée, elle a été pute pendant un peu plus de 2 ans. Vous excuserez ma formulation qui vous aura peut-être choqué, mais c'est un mot qu'elle assume, qu'elle revendique. Bonsoir Emma Becker.
Bonsoir.
Vous publiez chez Flammarion l'un des livres choc de cette rentrée, ça s'appelle « La maison », dans lequel vous racontez votre expérience d'un peu plus de 2 ans, alors que vous aviez 25 ans alors, dans une maison close de Berlin. Vous avez choisi d'y aller pour écrire un livre, ou vous aviez envie de vivre cette expérience et vous vous êtes dit « ça pourrait en faire un livre ».
Oh bah en fait, un peu les deux. J'avais vraiment une curiosité à la base pour la profession et pour les femmes qui exercent. J'avais très envie d'écrire dessus, ça m'inspirait beaucoup. Et en fait, l'envie d'écrire, l'envie de faire le boulot, tout ça était tout à fait emmêlé, quoi.
J'employais à dessein ce mot qui a peut-être choqué quelques oreilles d'auditeurs. Le mot « pute », c'est celui que vous revendiquez, que vous écrivez dans ce qui est à la fois, j'allais dire, votre style, mais pour vous, c'est le mot qu'il convient d'employer.
Bah, c'est le mot qui convient pour moi d'employer. Après, je ne force personne. Je comprends tout à fait que des femmes qui fassent ce métier n'ont pas très envie qu'on utilise ce mot-là. C'était le mot qu'on utilisait entre nous à la maison. Et je le préfère au mot de prostituée qui comporte, enfin voilà, dans sa forme passive à la base, une espèce d'infantilisation automatique des prostituées, quoi. Enfin, des putes, en l'occurrence.
Est-ce que vous ne redoutez pas, finalement, que votre œuvre littéraire, parce que j'insiste beaucoup sur ce terme, il y a une écriture, il y a une forme d'introspection, une mise à nu même de ce que vous êtes qui est absolument fascinant, troublante par moments. Est-ce que vous ne redoutez pas, Emma Becker, que l'œuvre littéraire soit finalement quelque peu occultée par la tentation d'y voir un reportage, une plongée dans le monde de la prostitution, ou peut-être à l'inverse aussi une forme de marketing un peu racoleur?
Bah, disons que c'était aussi le risque du projet, mais jusqu'à présent j'ai l'impression quand même que les gens dans leur grande majorité ont compris qu'il s'agissait d'un roman, et qu'effectivement le fait qu'il y ait une part d'autobiographie n'empêche absolument pas la part très importante, très significative de fiction, autant dans la narration que dans la façon de reconstituer les souvenirs que j'ai de la maison, le souvenir étant à la base déjà un appel à la fiction. Et puis chaque personnage dans mon livre est aussi une partie de moi. Donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais conçu moi comme un témoignage ou comme un récit.
Et pour nos auditeurs, je vais lire le mot qu'on peut lire en quatrième de couve de votre livre. J'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes avant de m'apercevoir que je n'écris que sur les femmes, sur le fait d'en être une. Écrire sur les putes qui sont payées pour être des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui ne sont que ça. Écrire sur la nudité absolue de cette condition, c'est comme examiner mon sexe sous un microscope et j'en éprouve la même fascination qu'un laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie. Ce texte, il résume très très bien votre livre « La maison » Emma Becker.
J'avais toujours ce projet d'écrire en fait une mécanique des hommes qui aurait été un peu un pendant à la mécanique des femmes de Louis Calafert. Après, quand je relis mes livres, effectivement, je m'aperçois bien que tous mes livres sont un discours féminin sur le fait d'être une femme et ce que ça m'inspire, ce que ça engendre, et puis l'aventure que c'est. La mécanique des hommes, il me semble qu'elle a été écrite dans tous les livres depuis le début de l'humanité, puisque la parole appartient majoritairement aux hommes dans ce domaine comme dans les autres.
On pourrait citer comme exception avant vous, effectivement, peut-être Virginie Despentes ou Catherine Millet, qui racontaient par les mots leurs aventures et qui faisaient de la question du désir et du sexe beaucoup plus qu'une simple question de désir et de sexe, mais tout simplement de vie ou d'identité. Vous avez conscience, j'imagine, que le discours que vous tenez aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui d'une grande revendication des femmes, peut choquer.
Je comprends ce en quoi il peut choquer. Simplement, il me semble quand même qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme, qu'il y en a plein, et que le féminisme des putes, c'est un féminisme aussi valide que les autres, puisqu'il s'agit là de liberté et d'affranchissement, et le fait de pouvoir disposer soi-même de son corps. Je parle plus en vérité de liberté et de prise de pouvoir et de prise de parole que de prostitution.
Et vous retournez finalement d'une certaine manière une forme de propositions qui semblaient induites, la prostitution, soumission de la femme. Vous faites, vous, de la prostitution, à travers votre récit, votre expérience, un exercice de pouvoir de la femme sur l'homme.
Oui, parce que moi, c'est cette expérience-là que j'ai choisi de faire et que j'ai pu faire parce que je suis tombée dans un endroit comme la maison. Mais il me semble quand même qu'on occulte beaucoup l'existence des prostituées qui ont choisi de faire ce métier et qui, en tout cas, si elles ne l'ont pas choisi, si elles le font simplement parce qu'elles ont besoin d'argent, qui ont le droit, je pense, de travailler dans des conditions dignes.
Est-ce que pour vous, c'était une manière de résoudre une forme d'injonction contradictoire auxquelles les femmes sont aujourd'hui soumises dans notre société ? Elles doivent être femmes, elles doivent être mères, elles doivent travailler, elles doivent être putes parfois pour leur conjoint.
Peut-être de les exposer pour les disséquer après. Aujourd'hui, les rôles ont tendance à se mélanger un peu. Ce que j'ai découvert en faisant cette expérience, c'est que les rapports de soumission et de domination ne sont jamais vraiment identiques et que dans un contexte comme celui-là, auquel vraiment on s'attend à une soumission totale de la femme, on s'aperçoit que souvent, en fait, c'est la femme qui a le pouvoir.
Qu'est-ce que cette expérience et ce livre vous ont, Emma Becker, appris des hommes?
J'ai pas l'impression d'avoir appris beaucoup des hommes, j'ai l'impression d'avoir...
Vous le saviez déjà.
Non, en tout cas, j'ai appris beaucoup plus des femmes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une relation beaucoup plus paisible maintenant avec les femmes, d'avoir beaucoup plus confiance. Je crois que ce qui m'a surprise par rapport aux hommes, c'était peut-être ce qu'eux viennent chercher au bordel, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend. C'est pas forcément toujours du sexe, d'ailleurs. C'est une tentative de réduire la solitude entre les êtres. Les hommes, je pense, ont un besoin de substance qui est un peu comparable à celui des femmes aussi. Personne ne fait l'amour juste avec son corps, les hommes non plus.
Ça vous a changé, cette expérience, Emma Becker ?
Oui, à beaucoup de niveaux. J'ai l'impression d'être beaucoup plus paisible avec moi-même, avec mon besoin d'évoquer le désir, de ressentir moi-même du désir. J'ai l'impression que mes revendications féministes se sont beaucoup plus étayées en faisant cette expérience-là. J'ai l'impression d'avoir vraiment pu comprendre mieux mes contemporains. Je ne prétends absolument pas parler pour qui que ce soit d'autre que moi-même. Simplement, ce que j'essaye de dire, c'est que la prostitution, c'est une multitude d'expérience et que mon expérience à moi n'invalide pas l'expérience des femmes que l'on force à faire ce métier. Simplement, ça, peut-être que ça montre aussi qu'il y a des femmes qui font ce métier, qui l'ont choisi, qui pour certaines en sont fières, et que ces femmes-là, il faut aussi les écouter et leur donner la parole. En ne parlant que de la prostitution forcée et que des victimes, en fait, on oublie toute une partie significative de la population qui exerce ce métier. Et il me semble que c'est pas juste.
Et de celles qui la consomment également. effectivement, car les hommes sont aussi les personnages de votre très beau livre qui s'appelle La Maison chez Flammarion et qui sera peut-être dans quelques heures, quelques jours, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Emma Becker, le prix Renaudot, puisque vous êtes dans les 5 romans qui ont été sélectionnés pour la sélection finale du Renaudot. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous sur Europe 1. Je peux conseiller à tous nos auditeurs de lire La Maison, Emma Becker chez Flammarion.
Merci.
Le rendez-vous incontournable de ce grand journal du soir, François, c'est Une chanson dans la tête.
Ah oui, il vient d'entrer en studio, c'est Vinyle sous le bras, Fabien Lecoeuvre, et on aurait pu d'ailleurs mixer cette musique sur l'interview d'Emma Becker, Vertige de l'amour.
Ah,
Vertige
c'est vrai.
De l'amour. Bachoum, évidemment.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec François Claus. Vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1. Il est maintenant 18h53, l'heure de la chronique musicale de Fabien Lecoeuvre.
Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie.
Plus rien ne s'oppose à la nuit. Quelle phrase, ces phrases de Bachoum qui sont restées dans nos têtes.
Dans nos têtes et dans nos cœurs.
Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Ça fait 10 ans déjà.
Voilà, et oui, déjà 10 ans cette année que le grand Alain Bachoum nous a quittés à l'âge de 61 ans. Et un an après la sortie de son album posthume, avec 11 titres inédits. Et 30 jours après, vous savez, ce concert hommage qui s'est déroulé au Grand Rex, avec les anciens musiciens du chanteur, et puis il y avait de nombreux artistes comme Hubert Félix Thiéfaine, Diane Dufresne, il y avait Birkin, il y avait Adamo, il y avait Raphaël. Il y avait même Julie Gayet qui a lu un texte devant François Hollande, assis au premier rang. Alors Alain Bachoum, on ne peut pas l'oublier, c'est une des plus grandes figures, et vous le savez François, de la chanson et du rock français, qui a obtenu 13 victoires de la musique. Mais on oublie souvent qu'il a eu du mal à s'imposer.
Même si Fabien, la musique chez lui, ça vient de très très loin. En fait,
hein. Ah oui, alors ça vient de très très loin parce que c'est sa marraine adorée, André. Alors André, c'était une ancienne responsable du personnel et des œuvres sociales chez Renault, les voitures, où travaille la mère d'Alain Bachoum d'ailleurs, et qui lui a véritablement fait découvrir le monde de la musique. Et oui, quand il obtient son certificat d'études, elle lui offre une guitare Lucky Seven. Alors, elle l'emmène aussi avec, dans plein de concerts, aussi bien celui d'Edith Piaf, on a oublié ses racines, hein, et celui de Jane Vincent, bien sûr.
Ça correspond mieux au personnage. Hein, les boucles noires,
oui,
le
quand même, en même temps, Bachoum s'est souvent exprimé sur Piaf en disant qu'elle était souvent aux racines du rock'n'roll. Et puis, c'est un ami de sa marraine qui est régisseur à l'ORTF, qui lui permet d'assister à des émissions avec Henri Salvador. Alors, à partir de là, la vocation est née.
La vocation est née, mais il faut entrer dans un monde très fermé et c'est pas si simple.
C'est pas simple parce qu'au milieu des années 60, avec des copains musiciens, Alain Chamfort forme son premier groupe de rock et enregistre même un premier 45 tours en 1966. Et cette même année, il entre comme arrangeur chez RCA et compose aussi des chansons pour différents artistes. Et je pense justement à Dick Rivers. Il travaillera sur 3 albums entre 72 et 1974. Et puis finalement, en septembre 73, il interprète le rôle de Robespierre. On l'a oublié.
Ah non. Oui. Mais alors, je suis tombé, moi, sur le triple album là, en vinyle de la Révolution française.
Oui.
Y a Bachoum, donc.
Absolument. Oui. Dans la comédie musicale, La Révolution française, en septembre 73, je l'ai vu au Palais des Sports à Paris, septembre 73. Et à la fin des années 70, le chanteur Bachoum, c'est un gentil dandy. Alors, il s'identifie souvent musicalement et intellectuellement à Bob Dylan. Il aime son imprudence, on va dire, ses silences et son indémodable culture rock. Alors seulement, il a beau admirer Dylan, artistiquement, la carrière de Bachoum ne décolle pas. Et depuis 10 ans, il participe à de nombreux festivals, change souvent de pseudonyme et enregistre plusieurs vinyles prometteurs. Rien à faire, sa carrière tourne en rond et le succès pour lui tarde à venir. En attendant, en tout cas, il chante dans la troupe aux côtés de Daniel Balavoine, de Martin Circus pour Claude-Michel Schoenberg. Chouan en avant.
Chouan en avant, pas Saint-Denis, pas Saint-Jean, Cap-Breton, en avant.
Oui, on est assez loin d'oser Joséphine. Là,
ah, ça c'est clair, mais c'est important de refaire un peu l'histoire, François.
Et il va y avoir une rencontre absolument décisive,
absolument.
Un homme qui manie la musique, l'autre les mots.
Et voilà, une rencontre déterminante avec Boris Bergman, évidemment. Un beau jour de l'automne, en 1975, son directeur artistique, Jacques Dangean, lui présente un certain Boris Bergman. Ce dernier est parolier à succès. Il travaille en 8 langues. C'est d'ailleurs Bergman qui co-signera 7 ans plus tôt pour les Aphrodite Child, souvenez-vous, le tube planétaire Rain on Tears. Et surtout, Jacques Dangean est est persuadé que Bergman peut faire décoller la carrière d'Alain Bachung. Ainsi, le premier jour de leur rencontre, Bergman et Bachung évoquent leur goût culturel. Ils se retrouvèrent d'ailleurs, une passion, on va dire, commune pour un roman de science-fiction.
Alors, il y a une fusion entre les mots de Bergman et la manière dont Bachung... On va écouter un petit extrait d'une des chansons qui me touche le plus. Ah. C'est dans Passé Rio Grande, 1986, oui. Malédiction. Malédiction. Avec ce fameux vers, tu multiplies, tu additionnes les petits câlins anonymes.
Chef-d'œuvre d'écriture. Alors bien sûr, pour reparler de Bergman, l'année 1980, un premier titre signé, donc Bergman et Bachung, arrive chez les disquaires. Un tout premier tube, Gabi, oh Gabi. 1 million d'exemplaires vendus.
Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries.
Eh oui, Bachung, Gabi oh Gabi, plus d'un million d'exemplaires à l'âge de 35 ans. Et puis tout de suite, un succès qui se confirme encore l'année suivante avec Vertige de l'amour.
Et Vertige de l'amour, désir fou que rien ne chasse.
On va tout de suite faire... Jean Faux. Alors justement, le renouveau arrivera aussi dans la carrière de notre ami Bachung, avec Jean Fauque. Alors à partir de 1989, il commence à travailler avec un nouveau parolier, Jean Fauque. Ils se connaissent depuis plusieurs années, mais n'avaient pas encore collaboré ensemble. En 1991, il coécrit 5 titres de l'album « Osez Joséphine ». Et en 1994, il coécrit entièrement l'album « Sheraton » qui contient le mythique « Ma petite entreprise ».
Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés.
Album sur lequel il y aura le magnifique Je passe pour une caravane aussi,
entre autres,
magnifique titre.
Bien sûr, évidemment, et puis on n'oublie pas, bien sûr, La nuit je mens, avec cette rencontre amoureuse avec Chloé Mons, bien sûr.
Inlassablement, c'est les voiles de mes doigts de palper là cet épiderme.
Et le magnifique président résident qui se passera pour le dernier album. On aurait pu tenir 20 minutes sur Bachung.
Une bonne demi-heure, ouais. Je suis d'accord avec vous.
On y reviendra. Merci Fabien Lecoeuvre. On se retrouve demain.
Demain.
Et jusqu'à 20h, nous sommes avec François Claus.
Restez bien à l'écoute. À partir de 19h15, on va revenir sur un mythe, sur une légende, sur un marqueur d'une époque aussi, un certain Mérine avec les archives d'Europe 1.
Il est 19h.
Quand on est en vacances, on se dit bien que si le train vient pas, on va pouvoir rester un jour de plus, mais il faut de toute façon reprendre le travail.
Les vacances de la Toussaint s'achèvent demain. Les retours en train se déroulent sans encombre pour l'instant, malgré les difficultés qui ont touché les TGV Atlantique ces derniers jours.
Un militaire, Sophie Echène, français, tué au Mali. Son véhicule blindé a déclenché un engin explosif. Le président de la République salue le sacrifice de soldats.
La tempête Amélie devrait toucher le littoral atlantique. Dans la nuit, 15 départements sont placés en vigilance orange. Sur place, les commerçants se préparent. L'Afrique du Sud remporte la 3e Coupe du Monde de son histoire. Victoire contre l'Angleterre. À Londres, les supporters sont très déçus.
Je suis dégoûté. C'est horrible, ça fait vraiment mal. J'étais convaincu que l'Angleterre allait gagner. Ça a été une journée difficile.
En ce week-end de la Toussaint, la fréquentation augmente dans les cimetières, particulièrement sur les tombes des personnalités. Et cette année, celle de Jacques Chirac a particulièrement attiré la foule.
Nous venons de Corrèze. C'est pas un pèlerinage, mais presque. Il y a de l'émotion parce qu'on se remémore les fois où on l'a rencontré.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et écoutez le journal de Sophie Echène, le retour à la normale. Sophie se profile sur l'axe atlantique alors que les vacances de la Toussaint se terminent demain. La SNCF annonce la circulation de 9 TGV sur 10 à partir de lundi.
Mais la situation semble déjà s'être calmée. La société ferroviaire a annoncé 8 trains sur 10 sur cet axe qui relie Paris à l'ouest de la France. Mais à la gare Montparnasse où vous vous trouvez, Romain Noquet, tous les TGV annoncés étaient maintenus aujourd'hui.
Oui Sophie, si tous les trains sont affichés à l'heure et après une semaine de stress, d'interrogation sur le retour des vacances, c'est finalement une bonne nouvelle qui attendait Rebecca et sa famille en arrivant à la gare.
Et donc là, si on regarde le tableau d'affichage,
On est affiché et c'est bon, pas de retard.
Je regardais l'appli tous les jours pour me tenir informée des perturbations sur les lignes, pour être prêt pour la rentrée d'école pour les enfants, pour nous, pour reprendre le travail et tout ça.
Alors malgré les prévisions de la SNCF, 8 trains sur 10 ce week-end, d'autres voyageurs n'étaient pas vraiment sereins. C'est le cas de Corinne et de son fils Mathéo, venus avec 2 heures d'avance à la gare.
C'était quand même pas très tranquillisant de savoir qu'il y avait la grève et qu'on n'avait qu'un train. Enfin, que là pour le retour, c'était 8 trains sur 10.
Vous avez eu un message de la SNCF, là, pour ce train ?
Tout à fait. À l'aller comme au retour, on a eu 2 confirmations, une confirmation par SMS et une confirmation par mail aussi.
Des confirmations qu'ont reçues tous les voyageurs que j'ai rencontrés, comme Victoire, qui, elle, n'était pas très inquiète pour son retour.
Quand on est en vacances, on se dit bien que si le train ne vient pas, on va pouvoir rester un jour de plus. Mais il faut de toute façon reprendre le travail.
C'est le choix de la raison.
Voilà, tout à fait la raison d'abord.
Alors à ses côtés, la petite Luna, à 8 ans, n'est pas vraiment d'accord. Elle aurait bien espéré un train en retard et surtout une journée de plus à la mer avant la reprise lundi.
Merci beaucoup Romain Oquet, en direct de la gare Montparnasse pour Europe 1. Un soldat français a été tué lors d'une opération au Mali aujourd'hui, une annonce de l'Elysée. Le militaire a déclenché un engin explosif au passage de son véhicule blindé. La victime, le brigadier Ronan Pointeau, faisait partie du 1er régiment de Spahis de Valence. 15 départements placés en vigilance orange à l'approche de la tempête Amélie, la première tempête de la saison. Prudence donc de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques en passant par l'Allier, le Puy-de-Dôme ou encore le Cantal.
Des vents violents qui devraient balayer le littoral dans la nuit, rafales à 140 km/h. Babette Labourguine tient un restaurant sur le front de mer à Arcachon. Les commerçants ne sont pas très inquiets, mais Babette a subi des inondations il y a 3 ans. Elle a protégé son établissement par précaution.
La tempête Amélie, bon c'est sûr, ça va souffler très fort, mais pour nous le plus important, c'est de voir par rapport à la marée. Parce que s'il pleut beaucoup, comme c'est annoncé, on risque d'avoir des inondations. Ce soir, de toute façon, tout le front de mer a reçu comme consigne de fermer. La jetée est fermée, tous les restaurants seront fermés. Nous, on a préparé des sacs de sable au cas où pour éviter d'avoir des infiltrations ou quoi que ce soit. Puis on a des, si jamais on est inondé, on a des pompes de relevage, on a tout. Ah ben, j'habite juste au-dessus, donc pour moi c'est pratique, je n'ai qu'à descendre et je vois s'il y a inondation ou quoi. Donc là, on va veiller ça ce soir.
Des propos recueillis par Yasmina Katou pour Europe 1. Un jeune homme de 18 ans a été interpellé après la profanation du cimetière de Cognac en Charente. Il a reconnu les faits et a justifié son geste par son satanisme et sa haine de la religion catholique. Il va faire l'objet d'une expertise psychiatrique.
On attendait l'Angleterre qui avait vaincu les invincibles All Blacks. Eh bien non, ce fut l'Afrique du Sud qui devient pour la 3e fois de son histoire championne du monde de rugby, une victoire sans appel, 32-12. Le capitaine sud-africain Siya Kolisi salue ce qu'il appelle l'effort collectif. Nous pouvons juste pousser tous ensemble si nous voulons faire quelque chose. Un message qui va peut-être au-delà du sport, c'est ce qu'il a déclaré en soulevant la coupe. Mais une finale, Sophie, qui laisse un goût très amer en Angleterre.
Oui, le 15 de la Rose n'a pas tenu face à la force sud-africaine. Pourtant, à Londres, on y a cru jusqu'au bout. Joanna Chabas a suivi le match dans un pub du nord de la ville. Au coup de sifflet final, c'est bien la déception qui a pris le dessus.
Le pub était plein, tous les supporters avaient des pintes de bière à la main. À chaque occasion, les Anglais chantaient. Aujourd'hui devait être une fête, mais ça a tourné court. Uzo n'arrive toujours pas à accepter la défaite.
Je suis dégoûté, c'est horrible, ça fait vraiment mal. J'étais convaincu que l'Angleterre allait gagner. Ça a été une journée difficile.
Les Anglais étaient pourtant les favoris après avoir battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Pour Kerrian, c'est ça le plus difficile.
Je ressens probablement la même chose que les Néo-Zélandais la semaine dernière, quand les favoris ont perdu. L'Afrique du Sud a fait un super match. Ils l'ont complètement fermé, c'était la meilleure équipe et ils ont gagné.
D'ailleurs, une dizaine de Sud-Africains sont venus au pub. Pendant le match, entourés de supporters anglais, ils sont restés plutôt discrets. Mais après la rencontre, ils ont partagé des bières avec leur adversaire. Un moment fort pour Zach, arrivé il y a quelques mois d'Afrique du Sud.
Quand on joue, on veut gagner, on ne veut pas s'entretuer, mais c'est très physique. Après le match, tout le monde boit des verres, on raconte de belles histoires. Je crois que c'est presque unique au rugby.
Pour lui, la fête va continuer toute la soirée. Pour les autres, ils sont rentrés chez eux sous la pluie.
Joanna Chabas à Londres pour Europe 1 et sur la 3e marche du podium de ce mondial, on retrouve la Nouvelle-Zélande qui s'est largement imposée hier 40-17 contre le Pays de Galles. À Hong Kong, des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues aujourd'hui, 22e week-end de contestation pour ces militants pro-démocratie. De nouveaux heurts ont éclaté, la police a fait usage de gaz lacrymogène et d'un canon à eau. Plusieurs manifestants ont été arrêtés. Du nouveau dans l'affaire des vaches perturbées par les éoliennes en Loire-Atlantique. Plus de 300 bovins sont morts à proximité d'un parc éolien en l'espace de 7 ans. Mais les éleveurs, eux aussi, semblent subir les conséquences de la proximité avec ces appareils.
Ils évoquent un sommeil perturbé, des douleurs musculaires, des brûlures aux yeux. Des agriculteurs qui ont vu d'ailleurs leur productivité baisser depuis l'installation des éoliennes en 2013. Ils ont donc décidé de porter plainte contre X pour, je cite, « mise en danger de la vie d'autrui ». Explication, Caroline Baudry.
Ces deux éleveurs, à Pucelles, près de Nantes, en sont persuadés. Leurs symptômes sont directement liés à la présence des lignes électriques. Pendant une panne des éoliennes de quelques jours en mars 2017, les douleurs et la fatigue avaient disparu. Mais c'est grâce à l'analyse de la santé de leurs vaches que leur avocat Maître Echazard compte le prouver.
On a fait analyser les données du robot de traite pendant cette période de panne des éoliennes et on a pu constater effectivement que non seulement les vaches se portaient beaucoup mieux, mais qu'elles fréquentaient le robot de traite de façon beaucoup plus assidue, puisqu'on a augmenté une hausse de la fréquentation du robot de traite de 143%. C'est un peu pathétique, c'est un peu scandaleux, mais on est obligé de faire le lien entre le mieux-être des vaches et le mieux-être des êtres humains.
Ces troubles physiques ressentis par les éleveurs s'ajoutent à des conditions de travail extrêmement difficiles, selon l'avocat. Plus de 300 de leurs bovins sont morts depuis 2013. Pour ces préjudices, les exploitants espèrent une indemnisation d'au moins 100 000 euros.
Caroline Baudry a noté qu'un autre avocat, Maître Laforgue, va aussi porter plainte pour une douzaine d'autres éleveurs. La fréquentation s'intensifie dans les cimetières en ce week-end de la Toussaint. Chacun vient fleurir et nettoyer les tombes de ses proches, mais pas seulement.
Les pierres tombales des célébrités attirent effectivement beaucoup. Exemple, cimetière Montparnasse, 300 personnalités y sont enterrées. Parmi elles, l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Et c'est un reportage signé sur place, Marion Gauthier.
On ne peut pas venir à Paris sans voir Jacques Chirac.
Freddy est venu de Cambrai pour voir la tombe de l'ancien président au centre du cimetière. C'est les larmes aux yeux qu'il regarde la stèle blanche.
Il y a du monde qui vient quand même le voir. Hein, il était tellement... Pour moi, il était sympathique. Quand je voyais à la télé, là, quand j'ai vu le match de foot, là, il était bien.
Le voilà en 98, le soir de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Michel, lui, est ramené en 1995 par des offrandes toutes particulières posées sur la pierre.
Les pommes, tiens des pommes. Et puis après, je dis oui, manger des pommes. Il disait, c'est trouvé ça sympa que les gens y pensent.
Des mots de remerciement et des fleurs recouvrent le trottoir, débordent sur les sépultures voisines. Preuve que c'est bien un lieu de pèlerinage pour Steven. À 24 ans, il a grandi avec Jacques Chirac, politique bon vivant et accessible.
En partant de chez moi, mes parents m'ont donné de l'argent pour que je mette justement une fleur pour Jacques Chirac. Beaucoup d'émotion.
De l'émotion devant cette dernière demeure, des supporters de la première heure ou simplement des curieux attirés par l'attroupement.
Le reportage de Marion Gauthier au cimetière du Montparnasse pour Europe 1.
Et un petit peu plus loin, il y a également la tombe de Serge Gainsbourg qui attire également au cimetière Montparnasse toujours beaucoup de visiteurs. Merci Sophie Hachène.
Bon début de soirée avec Europe 1, il est 19h10.
Ma chère Valérie Darmon, le temps va rester très agité jusqu'à dimanche.
Absolument, les conditions sont fortement dépressionnaires sur l'ensemble du pays. Vous avez déjà connu beaucoup de pluie aujourd'hui dans le sud-est et dans le nord-ouest et des précipitations accompagnées d'un fort coup de vent en bord de Manche. Vent qui se renforce encore la nuit prochaine, surtout dans la deuxième partie de nuit sur le sud-ouest jusqu'au sud-Bretagne, d'où ces 15 départements en alerte orange. Attention aux chutes des feuilles sur les trottoirs et dans les rues, rendant les sols très glissants. Attention aux chutes d'arbres et en mer aux vagues de 5 à 8 mètres sur le centre du golfe de Gascogne. Les risques de submersion littorale par grosses vagues déferlantes sont très limités tout de même parce que les coefficients de marée sont bas. En tout cas, vous l'avez compris, depuis la Vendée jusqu'au Pays Basque, soyez prudents à cause des fortes pluies et des forts vents à partir d'une à deux heures du matin. Parallèlement à ces vents violents, des pluies abondantes vont se produire essentiellement sur les reliefs demain exposés au vent. Jura, Alpes du Nord, ouest du Massif central, où il va tomber l'équivalent d'un mois de pluie en 48 heures.
Merci Valérie Darmon.
C'est ce qu'on appelle météo de tout ça.
Oui.
Ça tombe bien.
Allez, place au journal des sports, François Clos.
Jean-François Pérez,
rebonsoir.
Rebonsoir
François.
Et on va tout de suite aller vers le Vélodrome. Il se passe des choses, Jean-François.
C'est le moins qu'on puisse dire. Entre Marseille et Lille, on avait laissé les deux équipes à 0-0 à la mi-temps. Stéphane Frangy, Marseille ou Lille, le match a-t-il choisi son camp? Apparemment, on peut répondre désormais que oui.
pratiquement définitivement 2-0 pour l'OM à 10 minutes de la fin tout juste. Ils ont été plus précis en seconde période, les Marseillais. Ils ont été récompensés. Ouverture du score de Morgan Sanson suite à une faute de main de Mike Maignan, le gardien lillois, qui relâche une balle assez facile pourtant dans les pieds de Boubacar Camara qui sert Sanson. Et puis à l'instant, ce 2-0, but assez indescriptible, gros cafouillage dans la surface de réparation lillois. Les Lillois fébriles, et c'est Dimitri Payet qui envoie une tête qui est un petit peu contrée par un défenseur lillois. Ça fait 2-0 Marseille, qui en cas de victoire eh bien accéderait provisoirement du moins à son objectif, le podium.
Merci Stéphane, on vous retrouve pour la fin de ce match dans quelques minutes. Ce soir 20h, le multiplex sur Europe 1, 5 matchs, l'affiche c'est Lyon qui se déplace à Toulouse. L'étonnant promu Brestois peut monter sur le podium en cas de succès à Amiens. Pour le reste, Nîmes reçoit Rennes, Angers-Strasbourg et Metz-Montpellier. Pas de changement à attendre en tête du classement malgré la défaite du Paris Saint-Germain hier à Dijon, 2-1. En Ligue 2, Lens prend la tête après sa victoire sur Lorient, 1-0. En Angleterre, nouveau renversement de situation pour le leader Liverpool mené 1-0, les Reds s'imposent finalement 2-1 à la 94e à Aston Villa grâce à Sadio Mané. Même score pour City face à Southampton. Défaite pour Manchester United battu à Bournemouth 1-0. Et enfin en Espagne, c'est Barcelone qui a mordu la poussière à Levante 3-1 malgré un but de Lionel Messi.
Tennis, c'est coitus interruptus à Bercy oui, cet après-midi, hein, des demi-finales tronquées.
On espère un choc en finale face au numéro 1 mondial Novak Djokovic, vainqueur en 2-7 du Bulgare Dimitrov. Mais l'Espagnol a dû renoncer, Rafael Nadal, victime d'un problème aux abdominaux. Nadal qui abandonne, c'est rare dans l'absolu, mais pas à Bercy. 9 forfaits sur les 14 dernières éditions. C'est une série noire assez incroyable. Au micro de Christophe Lamarre, écoutez la déception du patron du tournoi, Guy Forget.
Je l'ai rarement vu jouer aussi bien en indoor, donc on avait envie de le voir contre Shapovalov, la nouvelle génération bien sûr, et puis surtout peut-être en finale contre Novak Djokovic qui est numéro 1 mondial, même s'ils risquent de faire un chassé-croisé la semaine prochaine, mais c'était vraiment, ça aurait pu être en gros la finale de rêve. Donc on va avoir une finale extraordinaire, bien entendu avec le numéro 1 mondial contre la nouvelle génération Shapovalov, mais on aurait bien aimé voir Rafa un petit peu plus longtemps.
Voilà, Nadal forfait à Bercy et peut-être à Londres au Masters, voire pour la Coupe Davis. Décision la semaine prochaine, en attendant la finale demain à 15h entre Djokovic et Shapovalov. Et toujours 2-0 pour l'Olympique de Marseille contre Lille. Apparemment, le but de Lille aurait été refusé, François.
Oui, parce qu'on a cru qu'il y avait un but sur corner. Il y a eu une grosse bagarre ensuite, mais le but a été évidemment invalidé, semble-t-il, pour une faute sur ce corner.
Voilà, 2-0.
Bon, de toute façon, on va suivre la fin de l'actualité sportive, évidemment, dans le 18-20.
À suivre dans le Grand Journal du soir, François Claus.
Eh bien, nous allons parler de celui qui s'est construit une légende, qui est un marqueur des années 70, un certain Jacques Mérine.
19h17, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, François Claus.
Et on va préciser, Marlène, que du côté de Marseille, après des discussions sur le terrain, finalement, le but lillois a été validé. Ah. Score pour le moment à 6 minutes de la fin, Marseille 2, Lille 1. Vous aurez évidemment le score final dans le courant du journal. Mais nous allons surtout accueillir Mathieu Frachon dans ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est un des grands noms de l'histoire de la police. On vous doit notamment les dessous du 36 aux éditions du Rocher. Vous êtes une mémoire vivante de cette voyoucratie des années 70. Et si on parle de ça en ce moment, c'est que le 2 novembre 1979, eh bien, un certain Jacques Mérine était abattu, porte de Clignancourt à Paris. On dit Mérine ou Mesrine d'abord ?
Bon, à l'époque, c'était Mesrine. Aujourd'hui, on dit Mérine parce que, soi-disant, il l'aurait exigé. Bon, disons Mérine et puis n'en parlons plus.
On reviendra sur le débat autour des conditions de sa mort. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant, deux pages dans Le Parisien aujourd'hui ? Vous voyez, quand on a cité le nom de Mérine, j'ai dit, bien, on en fait un sujet, c'est le marqueur d'une époque.
C'est le marqueur d'une époque, c'est le marqueur de la fin d'une époque aussi. On ne se rend pas compte aujourd'hui combien les années 70 étaient d'une violence épouvantable. Aujourd'hui, on a l'impression que la violence est partout parce que les sources d'informations sont multiples, mais à l'époque, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui que nous avions du terrorisme multiple, nous avions du grand banditisme, nous avions des attaques à main armée, des kidnappings, des revendications. C'était une époque extraordinairement violente. Et Jacques Mérine est probablement l'un des Christs de cette époque dans le sens emblématique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a forgé sa propre légende, qui est arrivé à faire croire à tout le monde qu'il était un bandit au grand cœur, un bandit même revendicatif, ce qui n'était pas du tout le cas. Et en fait, tout a été réuni, y compris les conditions de sa mort.
Alors, la revendication, il y a ce document tout à fait étonnant que nous avons dans les archives d'Europe 1. Il s'évade en 1900. 78, il était dans les quartiers de haute sécurité, qui était à l'époque un grand combat de la gauche française, les conditions d'incarcération en France. Il s'évade, il envoie une cassette où il se confie aux médias. Europe 1 d'ailleurs recevra cette cassette, ne la diffusera pas à l'époque, il ne fallait pas faire l'apologie d'un truand. Et écoutez cette voix de Mérine qui s'adresse, et vous allez l'entendre de manière très prémonitoire, à la fois à la communauté française, mais aussi à sa compagne.
Et je considère que c'est pas si mal que ça, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il faut dans la vie. J'aime pas les gens, justement, qui reculent. Simplement de voir la détention en France, dans les quartiers de haute sécurité, quand j'ai vu réellement que on crée ça, non pour emprisonner l'homme, mais pour le détruire totalement, pour en faire un esclave de la pénitentiaire, au moins je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas.
Une cellule dont on ne s'évade pas, il faisait allusion à son cercueil, avec une vision prémonitoire. Pour vous, il a participé à l'enlèvement d'un journaliste aussi, de la revue d'extrême droite Minute. Il s'est construit lui-même une légende, et c'était un truand, comme voulait le présenter à l'époque l'homme qui le pourfendait, Broussard, un truand dangereux, comme les autres, disait Broussard à l'époque.
Oui, pour Broussard, comme il disait, c'était un crâne comme un autre. C'était un objectif effectivement prioritaire, parce qu'il y avait 18 mois de cavale, et c'était 18 mois où la diffusion de cette cassette, l'interview à Paris Match, il se foutait de la gueule de la police. Et pour les policiers, ça, c'était épouvantable. Et puis, c'est un homme dangereux. Mais il est vrai que par rapport au banditisme de l'époque, il y a eu quand même d'autres noms comme Jean-Charles Villoquet, Besse, etc. et d'autres qui étaient extrêmement dangereux. Dupré, le premier évadé en hélicoptère, etc. Il y avait des gens qui étaient extrêmement dangereux. Et si on regarde bien d'ailleurs sur le mythe que s'est construit Jacques Mérine, il revendique 39 assassinats, on lui en attribue 2 au Canada.
Mmh. Au moment de l'évasion au Canada.
Au moment de son évasion.
Sur les conditions également qui ont contribué au mythe, les conditions de sa mort, Porte de Clignancourt. La famille a porté plainte, a parlé d'un assassinat.
Oui, ça a été jugé en 2006.
Il y a eu l'histoire de ce camion et finalement la Cour de cassation a dit légitime défense. Nous avons eu l'homme qui a tué Jacques Mérine.
Oui, Jean-Louis Flamengui.
Jean-Louis Flamengui, il avait un Uzi. Il y avait 4 tireurs et lui avait l'Uzi qui, visiblement, c'est la balle qui a touché la tête de Mérine. Il n'y avait pas ordre d'abattre Mérine. Non. Il y avait une légitime défense ce jour-là.
Il y a une légitime défense dans le sens où, de toute façon, ce n'est pas règlement de compte à OK Corral. On va être très clair. C'est un bandit. C'est quelqu'un qui a 18 mois de cavale derrière lui, qui a enlevé un vieil homme, que ce vieil homme soit ce qu'il soit, peu importe, qui a séquestré une famille.
Là, vous faites allusion à l'enlèvement de...
J'ai plus le nom.
Du baron.
Non, c'est pas du tout. Non, non, c'est un rentier de 80 ans qui
pour enlève. Pour obtenir une rançon, oui,
pour obtenir une rançon qu'il obtient, le lièvre. Monsieur Lelièvre. Voilà. Après, il séquestre avec son complice une famille avec laquelle il passe des barrages, une famille avec des enfants. C'est quelqu'un qui, lors d'un braquage, a tiré. Donc, ce n'est pas règlement de compte à OK Corral. On imaginait quoi ? Qu'on allait avoir le shérif Broussard face au malfrat, face à face, dans la lumière, un jour de novembre ? Non, mais attendez, il faut être sérieux.
Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il aurait été excellent aussi. C'est-à-dire qu'il avait compris une certaine forme de communication et son discours a été relayé. Je disais, une partie de la gauche, le combat contre les quartiers de haute sécurité était devenu un combat politique.
Oui, mais parce que alors, sur le combat contre les QHS, on va être très clair, c'était d'une déshumanité totale, d'une inhumanité. C'était épouvantable. En revanche, sur le reste, il s'est, de façon fort opportune, il a compris qu'il pouvait arriver à s'emparer de certains leviers psychologiques, de certains leviers qui étaient très à gauche à l'époque. Il a beaucoup joué avec le journal Libération de l'époque, il a beaucoup joué avec certains médias, il a été très malin. Oui, il a été très malin. C'est quelqu'un qui est malin, intelligent. Un voyou malin, intelligent, c'est un cocktail. C'est un cocktail qui peut sauter à la figure de n'importe qui.
Et c'est un cocktail qu'il convenait d'évoquer 40 ans après, jour pour jour, sa mort, Porte de Clignancourt. Merci beaucoup, on aurait aimé vous entendre plus longtemps, évidemment.
J'aurais aimé aussi.
voilà, la radio, le temps est compté. Mais je renvoie en tout cas les dessous du 36, une plongée passionnante dans le monde de la police. C'est aux éditions du Rocher et c'est signé Mathieu Frachon. Merci encore.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Le Grand Journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est maintenant 19h24, François Claus.
Et l'écho de la planète, bien sûr, cet écho qui résonne dans nos oreilles, Marlène, on le doit à Virginie Salmen, notre spécialiste environnement. Bonsoir Virginie.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Au sommaire, dans quel état est la biodiversité en France? À la rubrique pêche, alerte sur les stocks de cabillaud. Et puis, dormir dans la forêt, construire une cabane. On a trouvé un super livre en mode d'emploi.
La biodiversité est carrément sous pression.
Oui, et la France a une grande responsabilité. Notre pays abrite 10% des espèces connues dans le monde, avec la métropole et les dom-toms, bien sûr. Le bilan n'est pas fameux. 18% des espèces sont éteintes ou menacées d'extinction dans notre pays. Les deux principales raisons, c'est que les endroits où vivent les animaux, donc les forêts, les dunes, les tourbières, eh bien, ils sont en mauvais état. Et puis, il y a aussi l'effondrement du nombre d'insectes, ça veut dire moins de nourriture. Il y a un autre phénomène. Ce sont les espèces exotiques envahissantes qui sont des prédateurs ou qui transmettent des maladies aux espèces locales. Les animaux envahisseurs, ce sont notamment le ragondin, la grenouille taureau, le frelon asiatique qu'on connaît un peu mieux, ou chez les plantes, les jussies, ce sont des sortes de nénuphars. Autre fléau, l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on construit des centres commerciaux ou des routes, ce qui prive les animaux de zones de nature. Et ça, c'est 65 000 hectares perdus chaque année en moyenne.
Et est-ce qu'il y a des espèces qui s'en tirent ?
Alors oui, le loup, par exemple. C'est l'animal qui connaît la plus forte progression. Les populations de lynx aussi se portent bien. Et puis, pour les ours, c'est quasi stable. Alors, pour remédier à ça, il y a un plan biodiversité qui date de l'an dernier et qui vise officiellement à réduire à zéro la perte nette de biodiversité. C'est l'objectif, en tout cas.
En mer, maintenant, moi, c'était le poisson de mon enfance le plus commun. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable rareté, Virginie, le cabillaud.
Oui, les accords de pêche se négocient en ce moment et Bruxelles propose de fortes baisses pour les quotas de pêche du cabillaud. Écoutez bien, moins 88% par rapport à l'an dernier. Dans les mers à l'ouest de l'Irlande, l'ouest de la Manche et la mer Celtique. Alors évidemment, pour essayer de régénérer les populations de ce poisson, parce que le cabillaud, il est souvent pêché par erreur, puis rejeté à la mer par des pêcheurs qui sont venus pêcher autre chose, un autre poisson. Il y a une vigilance aussi sur le merlan.
Vous nous avez déniché un livre, une sorte de manuel des castors juniors pour les familles.
Oui, oui, vous avez raison. C'est un peu comme ce livre imaginaire qu'utilisent les neveux de Donald. Alors ça s'appelle La vie sauvage et c'est un vrai manuel pratique pour vivre des aventures dans la nature. Alors vous apprenez à bivouaquer en canoë, à dormir dans la forêt, à faire des nœuds, à ramasser des algues comestibles. Bref, à vivre des moments inoubliables en communion avec la nature. Ce ne sont que des choses que l'auteur Yann Pekat a faites, par exemple, construire un vrai bateau solide en carton.
C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est assez rigolo en fait. Des gens prennent des grands cartons de frigo ou de lit et suivant un certain pliage, en fait, ils arrivent à en faire un petit bateau et ils partent naviguer.
Alors sa compagne en a construit un bateau en carton pour 7 personnes, c'est pour dire si c'est solide. Alors c'est pas un livre pour les aventuriers, hein, c'est plutôt pour vivre des aventures en famille avec des enfants à partir de 7-8 ans. Lui, son dernier souvenir, c'est une nuit au bord d'une rivière, le Lot, avec son fils de 13 ans et un hamac chacun accroché aux arbres. Évidemment, un bon bouquin et puis une bonne discussion.
Et voici le conseil de votre copine Catherine.
Oui, un conseil pour ceux qui sont en week-end ou en vacances et qui ont envie de bricoler. Alors si vous n'avez pas de perceuse à percussion sous la main ou de scie sauteuse, pourquoi, au lieu de vous ruer vers le bricorama le plus proche, ne pas emprunter celle de votre voisin? Il l'utilise 0,46 fois par an. Peut-être pas la peine d'investir chacun pour si peu. Alors pour se prêter et emprunter des outils, il existe évidemment plusieurs applications. Mais si vous connaissez bien vos voisins, vous pouvez aussi tout simplement créer un groupe WhatsApp. Ça rend bien des services, ça permet de faire connaissance. Et même pour un lecteur de DVD, une friteuse, un tournevis, eh bien ça permet de revenir à une consommation plus sobre. Conseil signé Catherine Margne.
Merci Virginie, et bien sûr, on se retrouve samedi prochain.
Il est 19h31 et vous écoutez le grand journal du soir avec vous, François Claus.
Et on va écouter le rappel des titres. On va savoir dans un instant si Marseille a battu Lille. Rebonsoir Sophie Echène.
Rebonsoir François, bonsoir à tous. L'Elysée annonce la mort d'un soldat français au Mali, le brigadier Ronan Pointeau. Il a déclenché un engin explosif improvisé avec son véhicule blindé. Emmanuel Macron salue le sacrifice de ce militaire et réaffirme sa détermination dans le combat pour ramener la paix au Sahel. La tempête Amélie approche du littoral atlantique. 15 départements sont placés en vigilance orange au
vent violent. On attend des rafales jusqu'à 140 km/h. Le chauffeur d'un camion placé en garde à vue dans les Alpes-Maritimes, 31 Pakistanais dont 3 mineurs ont été retrouvés cachés à l'arrière de son véhicule. Ils ont été découverts lors d'un contrôle sur l'autoroute A8, tout près de la Turbie à la frontière italienne. Ils ont tous été remis aux autorités. Le retour à la normale sur l'axe atlantique. La SNCF annonce 9 TGV sur 10 en circulation à partir de lundi. Demain, pour la fin des vacances de la Toussaint, il y aura encore 8 trains sur 10 sur cet axe qui relie Paris à l'ouest du pays. Énorme surprise au Masters 1000 de Paris. Bercy, Rafael Nadal a été contraint de déclarer forfait juste avant sa demi-finale en raison de douleurs aux muscles abdominaux. Et puis la victoire de l'OM contre Lille à l'instant, je l'ai dit, les Marseillais se sont imposés 2-1. Suite de la 12e journée de Ligue 1 ce soir avec 5 matchs en multiplex à 20h, notamment Toulouse, Lyon et Nîmes contre Rennes.
Et qu'on suivra bien sûr dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau d'ici maintenant 28 minutes exactement. Merci Sophie.
L'heure du dîner approche, on vous met l'eau à la bouche avec notre rendez-vous gourmand dans l'ombre des grands chefs, François Claus.
Alors mon cher Pierre Herbulot, dites-nous où vous allez nous emmener aujourd'hui. Bonsoir Pierre.
Bonsoir François, je vous emmène dans les cuisines du chef 2 étoiles Christophe Haribert. Bonsoir chef.
Bonsoir.
Votre restaurant La Maison Haribert est à Uriage-les-Bains, à un quart d'heure de Grenoble, c'est ça?
Ça, on est à proximité de la ville et à proximité de la montagne aussi, juste au milieu des deux.
Magnifique. Qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir comme plat?
Alors ce matin, je suis allé au marché, j'ai pris des carottes, des navets, des pommes de terre, des oignons et des poivrons. L'idée, c'est de faire une assiette 100% végétale avec du cru, du cuit. Mais assez simplement et que ce soit bon et savoureux.
Formidable. Par quoi on commence?
On va commencer par faire une galette de pommes de terre et de carottes. Donc là, je le passe dans la mandoline. On voit qu'il va me permettre de réaliser une galette. Et pareil pour la carotte, une grosse julienne. Voilà, assez simplement. Je vais pouvoir la mettre en cuisson. Donc c'est parti. Ensuite, dans un sautoir, là, je vais faire fondre mes oignons et mon poivron. Ok. Je déglace au vieux vinaigre les oignons et on entend ça chante le déglaçage. Voilà ma petite galette de pommes de terre.
Ah, ça y est, elle est liée là.
Elle commence à être pas mal. Donc on va la tourner. On va y aller. Comme une crêpe.
Alors,
on est prêt. 1, 2, 3. Hop là.
Waouh.
Joli. Pas mal. J'ai bien. Ça va.
Vraiment comme une crêpe. Et voilà. Elle est toute dorée en dessous.
Elle est toute dorée.
Pour résumer, on a la galette d'un côté, les oignons et le poivron qui compotent de l'autre. Et là, on se lance dans une troisième préparation. Le chef vient de couper grossièrement des pommes de terre, des navets et les carottes.
Je mets à cuire les navets, les pommes de terre, les carottes dans la poêle. Plein de textures, plein de goûts, plein de couleurs. C'est très beau.
Et là, on a trois casseroles qui chantent maintenant.
Voilà, les trois sont en route. Maintenant, j'ai préparé la carotte râpée.
Alors, à la maison, vous allez plus lentement. C'est pas une compétition.
Non, voilà. Donc, le but, c'est de maîtriser le geste. Donc, par pitié, n'achetez pas les carottes râpées dans les supermarchés. On va acheter une carotte au marché et on la râpe soi-même. On l'assaisonne avec une bonne huile d'olive, un bon vinaigre et ça fait toute la différence. On va commencer à goûter un peu maintenant parce qu'on devrait être pas loin de la vérité. Il faut toujours laisser les légumes croquants. Ça commence à être pas mal. Alors pour le dressage, ça va être assez simple. L'idée, c'est de dresser la galette dans le fond de l'assiette. Ensuite, le chutney qui vient à côté de la galette. J'ajouter mes légumes rôtis au milieu. Et ensuite, je vais mettre ma carotte râpée en haut pour terminer mon plat. Je vais ajouter un tour de moulin, un tout petit peu de fleur de sel. Et voilà, c'est terminé.
Waouh, c'est beau. Hein. Bon, j'y vais à franco. Hein. On a les carottes râpées qui sont bien fraîches, ça croustille au fond, on a plein de textures différentes. C'est hyper intéressant et en plus, on n'a pas l'impression que c'est aussi simple quand on le mange. Ouais. Je vous ai vu faire.
En fait, c'est d'une grande simplicité à réaliser et à manger, c'est très très agréable et assez complexe au bout du compte puisqu'on a plein de textures et plein de goûts, de la chaleur, de la fraîcheur et des légumes entiers.
C'est simple hein, la cuisine. Hein. On va au marché, on prend trois beaux produits, là il n'y a pas grand chose. Un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre, ouais, et puis on se régale.
Une bonne huile d'olive, un bel assaisonnement et on se régale.
Bon, ben, je vais conseiller chaudement aux auditeurs d'aller voir la recette sur le site internet et puis de se régaler avec votre petit retour de marché. Merci, chef.
Merci à vous.
Oui, faisons ça. Merci, Pierre Herbulot. Donc, recette à retrouver sur europe1.fr, comme toutes celles des semaines passées, d'ailleurs. 19h35, voici une semaine en Europe 1, les moments forts sur l'antenne.
Dimanche 27 octobre, dans ses belles balades avec, Frédéric Taddeï est devant la Sorbonne avec l'avocat François Sureau qui vient de publier « Sans liberté ». Inquiet de l'accumulation de textes liberticides en France, les Français seraient-ils prêts à basculer dans la tyrannie, demande Frédéric Taddeï.
Il y a une exagération de la mise en scène de la société de la peur. soit de la part de la presse parce que ça fait vendre, soit de la part du personnel politique parce que ça fait élire, qui est quelque chose qui me paraît extrêmement blâmable. Mais je pense que ça ne durera pas. Je pense que globalement, dans leur profondeur, les gens ont plus de sens commun qu'il n'y paraît. Mais je pense que nous n'allons pas cesser demain matin d'être le peuple de cette espèce d'inventivité dans la liberté. Je ne pense pas, je ne le sens pas. Et j'y pensais là à l'instant en regardant la coupe. On est juste devant la coupole de la Sorbonne. Et je pensais à ce que dit Giraudoux. Il est sur la tour Eiffel, hein, donc nous on est au pied de la Sorbonne, mais c'est un peu la même chose. J'ai sous les yeux les quelques hectares de terre où il a été le plus pensé, le plus aimé, le plus parlé, le plus écrit. Bah, c'est ça qui nous constitue. Et ça, je pense que c'est pas prêt d'arrêter.
Lundi 28 octobre, journal de 7h, reportage exclusif de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. En prison, des condamnés se retrouvent face à leurs victimes.
Il faut oublier, madame, que quand on fait les cambriolages, on ne vise pas vous comme personne. On vise la maison, ce qu'il y a dedans, à l'intérieur. On ne veut pas faire du mal à la personne qui habite dedans. On veut juste prendre l'argent qu'il y a dedans, des trucs comme ça.
J'ai eu un détenu qui m'a dit, écoutez, j'ai toujours voulu demander pardon aux gens à qui j'ai fait du mal. Et aujourd'hui, le fait de vous avoir demandé pardon à vous, ça m'a fait du bien. Et c'est comme si je leur ai demandé pardon et je vous remercie d'être venu. C'est émouvant. Et si je pouvais, par ma présence, aider un ou deux détenus et faire en sorte qu'ils sortent de prison et qu'ils ne rentrent pas parce que je les ai amenés à réfléchir, moi, ça me suffit, je suis heureux. C'est ça que je suis venu chercher.
Lundi 28 octobre, dans Culture Média, Philippe Vandel reçoit Yvan Attal pour son dernier film, Mon chien stupide, quand un grand dépressif de la vie se retrouve seul avec son chien. La bande-annonce commentée par l'auteur.
Je m'appelle Henri Moen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur.
Et c'est pas vous, évidemment.
Vous avez fait la bonne annonce de ma vie.
Non, voilà. Non, mais je vous imagine pas comme ça.
Non, mais évidemment que j'exagère un peu.
Et l'absence de libido, franchement, c'est dans la bonne annonce, je suis obligé de vous demander.
Il y a des choses. Encore qu'on a des petites périodes de temps en temps. Ouais. Je dis des petites périodes à cause des enfants, justement. Quand les enfants prennent tout votre temps, au bout d'un moment, il y a des conséquences, ouais. Vous comprenez ?
Mercredi 30 octobre, quand Nicolas Canteloup se fait président de la République au lendemain de l'attaque contre la mosquée de Bayonne.
Les Américains font péter le terroriste number one au monde et nous, on a réussi à plaquer au sol un petit vieux de 84 balais. Vous avez lu la news comme moi. L'individu a pris la fuite. C'est ce qui est marqué partout. J'aurais aimé voir ça. Un petit vieux de 84 ans qui part en courant, qui démarre en trombe, en deux chevaux pour fuir à 25 km/h dans les rues de Bayonne. Non, franchement, ça devait pas être spectaculaire. Ça devait plus ressembler à un épisode de Derrick qu'à Fast and Furious. Hein. Donc, bravo à mon Cricri Castaner pour cet exploit.
Du rire, de la pensée, des créateurs du reportage, c'était une semaine en Europe 1.
Et dans un instant, François, toujours sur Europe 1, eh bien c'est l'œil de Frédéric Dabi, directeur du département Opinion et Stratégie à l'IFOP. Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 19h41 et le grand journal du soir se poursuit avec vous, François Clos, et avec l'œil de Frédéric Dabi, directeur du département Opinion et Stratégie à l'IFOP.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
En ce week-end de Toussaint, le temps d'une pause ou religieuse ou sociale pour penser à tous ceux qui nous ont quittés. Moment également souvent de regroupement familial autour des cimetières et des tombes. C'est l'occasion ou jamais, Frédéric, de nous interroger sur nos pratiques funéraires qui disent beaucoup aussi de l'évolution de notre temps. Il y a un premier constat du côté de l'IFOP. Malgré la circulation des informations, on reste toujours démunis lorsqu'on est confronté à l'événement. Et côté français, on estime qu'on n'a pas assez d'informations sur les obsèques.
Oui, c'est vrai que les pratiques en matière funéraire sont en pleine mutation, mais malgré cela, il reste un déficit d'informations. Une nette majorité de Français interrogés récemment par l'IFOP pour France Tombale considèrent ne pas avoir un niveau de connaissance suffisant pour gérer des obsèques. Seules les personnes les plus âgées font exception. un déficit d'information alors que de plus en plus sont confrontés à la question de la mort. Et puis 2018 a été une année record avec 610 000 disparus, le niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, un nombre de décès qui progresse du fait du vieillissement des enfants, du baby boom.
Et ce manque d'information ou de connaissances, et on continue à se voiler la face sur la question de la mort sociétalement ?
Oui, elle reste absente de l'espace public, on reste sur la sphère intime, alors que l'IFOP mesure des tendances lourdes depuis plus d'une cinquantaine d'années. D'abord pour le choix, la préférence entre la crémation d'un côté et l'enterrement de l'autre, on a une vraie mutation sociologique. En 79, il y a 40 ans, une enquête IFOP montrait qu'une nette majorité de Français souhaitaient être enterrés, contre à peine 1 sur 5 souhaitant être incinérés. Une enquête récente montre que les choses se sont inversées. 47% des Français souhaitent être incinérés contre 29% enterrés. Un quart sont quand même indifférents. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une mutation lourde puisqu'il y a très peu de clivage. Pas de clivage selon le statut social, très peu de clivage politique. Un petit clivage générationnel, ce sont les 50 ans et plus qui sont les plus promptes à souhaiter être incinérés, ainsi que les habitants des communes rurales. Le seul vrai clivage est un clivage lié à la religion. Les catholiques pratiquants ne sont que 36% à vouloir être incinérés versus 55% pour les personnes qui se déclarent sans religion.
Et ce qu'on note évidemment, Frédéric, c'est clairement un recul de la foi que vous mesurez de manière assez massive si on se penche sur les 30 dernières années.
Tout à fait, cette inversion de pratique dans le choix des obsèques entre l'enterrement et l'incinération, on parle même de crématisation, s'inscrit dans un contexte de recul de la foi. Une enquête IFOP Atlantico publiée ce jour, quand on interroge les Français sur que se passe-t-il après la mort, pour un Français sur deux, l'être humain disparaît après la mort, c'est 10 points de plus que ce que l'on mesurait il y a 20 ans. Et là aussi, peu de clivages socio-professionnels, un clivage religieux. Désormais, seuls 14% des Français considèrent que l'âme devient immortelle.
Alors sur ces questions de pratiques funéraires, je disais que c'est aussi un indicateur, Frédéric Dabi, de notre époque. Et on voit évidemment la préoccupation écologique venir de manière très très prégnante dans ces pratiques funéraires françaises.
Oui, vous avez tout à fait raison François. Il y a deux enjeux qu'on trouve dans le discours des Français, dont on a souvent parlé sur cette antenne, qui désormais impactent ces questions funéraires qui ne sont pas coupées de la société et du discours des Français. D'une part, le pouvoir d'achat, avec un ressenti d'un coût des obsèques très élevé et qui ne cesse de croître. Et ce ressenti est objectivé par une enquête récente de l'UFC Que Choisir. Et puis, vous le disiez, François, l'environnement. Un Français sur deux se déclare intéressé par des urnes biodégradables ou des cercueils éco-certifiés. Et on voit apparaître dans le discours des Français des notions de matériaux, de circuits courts qui s'invitent dans les pratiques funéraires quand, en parallèle, l'offre évolue. On a vu apparaître des lieux d'inhumation écologique comme à Ivry, le cimetière parisien d'Ivry, où nous sommes sur des cimetières qui se déclarent naturels.
Merci Frédéric pour cet éclairage très complet sur les pratiques funéraires des Français. Puis il y a ce week-end un autre événement, il n'est pas anodin. L'ensemble de la rédaction de nos confrères de Charlie Hebdo est réuni aujourd'hui pour un forum sur la démocratie à Strasbourg.
C'est la première intervention publique de l'équipe de Charlie Hebdo, le premier déplacement hors des murs de Paris. Là, c'est à Strasbourg, en marge du Forum mondial de la démocratie. Le premier déplacement depuis l'attentat de 2015. Et c'est vrai que ce déplacement, cette visibilité de l'équipe de Charlie Hebdo n'est absolument pas anodin, puisque près de 5 ans, on va commémorer les 5 ans de la tuerie des frères Kouachi en janvier prochain. Cette rencontre, ce déplacement est l'occasion de rappeler des faits absolument glaçants, que cette rencontre se passe sous haute sécurité. Ça permet de rappeler le quotidien des survivants de la tuerie de janvier 2015 qui vivent encore sous protection policière avec des gardes du corps qui les suivent partout. Récemment, le directeur de la rédaction RIS a rappelé que 50% du budget de Charlie, c'est-à-dire d'un journal, est consacré à la protection de ces locaux. On voit que la normalité n'est toujours pas de mise, même si là, l'événement est extrêmement fort d'entendre RIS, d'entendre Coco participer à 3 tables rondes sur la liberté de la presse, sur la question de la censure, de la menace, de l'esprit critique qui est mis à mal à l'heure du politiquement correct. C'est un événement très fort, mais ne pas oublier surtout qu'il est malheureusement exceptionnel. Riss, Zineb El Razoui reste fortement menacé.
Et c'est peut-être l'occasion ou jamais de pousser nos auditeurs à aller se plonger dans le livre de Riss, très émouvant. 1 minute 49 secondes, ça s'appelle. C'était le temps de cette tuerie qui avait fait 11 morts le 7 janvier 2015. Et de lire ou de relire Le Lambeau, signé d'un des rescapés également, notre confrère Philippe Lançon. Merci Frédéric Dabi pour cet éclairage d'actualité sur les pratiques de crémation ou d'inhumation des Français, pratiques funéraires, et d'envoyer ce signal à nos confrères de Charlie Hebdo aujourd'hui à Strasbourg.
Merci.
À suivre dans le Grand Journal du Soir, François Claus.
L'interview de notre confrère Philippe Legrand de Paris Match, oui. Comme tous les samedis soirs. Si je vous dis Véronique, vous me dites quoi?
Sanson.
Ah ben non, c'est pas Véronique Sanson.
Non, bah,
Davina.
Ah bah David, Véronique
ben
et Davina.
Oui, Davina, dans un instant.
La suite du Grand Journal du Soir avec François Claus. Il est 19h50, les tours du monde en jet privé TMR vous présente l'entretien de Philippe Legrand.
Philippe Legrand de Paris Match, qui ne va pas recevoir Véronique Sanson, mais l'autre de Véronique, une certaine Davina. Bonsoir Philippe Legrand.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Bonsoir Davina.
Bonsoir.
Davina, c'est Véronique et Davina. Allez, quelques souvenirs quand même. Vous êtes passé de la gym tonique, quel succès, à la méditation tonique. Maintenant, vous êtes moine bouddhiste.
Hein, oui, absolument.
C'est votre nouvelle vie.
Oui, enfin, si on peut dire. Nouvelle, peut-être pour ceux qui ne savaient pas qu'elle est très ancienne. Elle date depuis très longtemps, depuis ma jeunesse. Hein. J'ai toujours pratiqué la méditation, la prière, le retrait. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a amené à la danse, finalement. Ce n'est pas nouveau pour moi. Hein.
Alors, ce n'est pas nouveau pour vous, pour quelques-uns peut-être. On va se replonger dans une date que vous avez choisi de nous raconter. C'est le principe de cet entretien. Mm-hmm. 5 octobre 1989, direction Oslo.
Déclaration du prix Nobel de la paix pour sa sainteté, le Dalai Lama.
C'était de l'émotion pour ce 14e Dalai Lama ?
C'était de l'émotion personnelle, c'est certain, mais je pense une émotion partagée, en tout cas quelque chose qui a amené une nouveauté dans l'esprit des gens. C'est l'idée de tolérance par rapport à la guerre. Comment peut-on faire une guerre autrement qu'en tuant, en blessant ? Eh bien, le Dalai Lama, lui, a trouvé qu'effectivement, on pouvait, en utilisant la compassion, en ouvrant plus largement son esprit sur les problématiques des uns et des autres, il était possible d'entamer un combat intérieur, c'est-à-dire que chacun devait regarder ses propres colères et essayer de les diminuer, parce que finalement, nous sommes tous des êtres humains.
Il a pris la parole, hein, ce 5 octobre 1989, n'est-ce oui. pas, Davina ? Ce Dalai Lama couronné qui recevait ce prix Nobel de la paix, qu'est-ce qu'il a dit en substance ? Vous avez ces phrases qui résonnent encore ?
J'ai peut-être pas ces phrases exactes, et puis je me permettrai peut-être pas de les donner comme ça, mais en tout cas, il a établi 5 points. Donc la préservation de la nature, la préservation des êtres humains, évidemment. Et puis la tolérance, la nécessité de faire attention à ce que l'on faisait, même si quelque part, c'est oui, on trouve des solutions, comme par exemple une très mauvaise que je vais vous donner, qui est en exercice, c'est d'enfouir les déchets nucléaires dans les Himalayas, alors qu'on sait que c'est une terre extrêmement pure, extrêmement belle, extrêmement porteuse de santé pour le monde entier. Donc voilà, de réfléchir à tout ça ensemble et de voir ce qu'on pouvait faire pour effectivement parer à nos nécessités sans abîmer la terre, sans abîmer les êtres.
Le 5 octobre 1989, Davina, le Dalai Lama est face au comité Nobel. Et le comité Nobel dit « Nous avons fait ce choix, d'abord pour les qualités humaines, mais aussi pour rappeler qu'il y a 30 ans, en 59, le Tibet subissait une répression terrible. » Qu'est-ce qui reste de ce moment-là ?
Alors, vous savez, il y a 30 ans, mais là on est aujourd'hui, on est maintenant, et le Tibet est massacré. C'est un véritable génocide. On passe vraiment à côté, car même si les médias nous informent, c'est vraiment trop peu comme information. On ne se rend pas compte que ce peuple, qui est un peuple qui apporte des qualités qui sont nécessaires au monde, comme chaque peuple d'ailleurs apporte des qualités. S'il faut regarder le monde, ça fait partie de nous. Notre individualité est composée de l'universalité, de tout ce qui existe. Et donc, c'est vraiment là, le peuple tibétain subit des violences. Je pense que beaucoup de gens ignorent.
Vous allez les voir, vous allez retrouver le Dalai Lama.
Je pars en Inde dans quelques jours, oui, pour retrouver le Dalai Lama.
Je crois qu'il faut s'abreuver à la source, cette source de paix, cette source de tolérance, cette source de recul par rapport à nos propres exigences, nos propres colères. C'est toujours important. On a besoin de ça pour pouvoir parcourir notre vie et parcourir le monde.
Ce 5 octobre 1989 l'a marqué. Il vous en parle, le Dalai Lama, quand vous échangez
avec
lui ?
Non, le Dalai Lama ne parle pas de ses honneurs, il ne parle pas de des dates, il parle du moment présent, de ce qu'il y a à faire, de ce qui est possible d'être fait, et ça concerne chacun.
Le 5 octobre, Davina, 1989, vous étiez où ? Devant votre télévision.
Alors ça, écoutez, télévision, là, déjà, j'ai pas la mémoire des dates.
À la télévision, si pour Jim Tonic.
Ah ben oui, ça c'est certain, c'était l'époque, oui.
Plus précisément, vous l'avez appris comment? Et quand vous avez appris cette nouvelle, évidemment, ben, ça vous a donné de la joie.
Je l'ai appris comme tout le monde, ça m'a donné de la joie, ça m'a touchée particulièrement parce que c'est vraiment mon sujet, c'est de prédilection. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une porte ouverte à un changement de comportement dans l'esprit des gens si le monde voulait bien s'ouvrir à cette transformation. Parce que finalement, tout le monde cherche à être bien, à être mieux, à acquérir plus de confort, plus de bonheur. Mais en allant uniquement vers les voies matérielles et en essayant de suivre seulement les chemins de son confort personnel, je crois qu'on ne peut pas y arriver. Les autres comptent autant que nous-mêmes. Et c'est avec les autres qu'on peut faire les choses. Donc aujourd'hui, on se plaint que le monde va mal, mais c'est parce que c'est nous, individuellement, qui allons mal. Donc il y a quelque chose à faire. Et ce quelque chose, en fait, se trouve dans la parole des sages, dans la pensée des sages et dans l'exemple des sages, que nous ferions bien de suivre.
Alors justement, pour vous suivre, on peut vous retrouver autour de la sagesse, dans l'agenda de la sagesse 2020, qui paraît Méditation et bien-être, votre nouveau livre, Davina, aux éditions d'Angle. En un mot, cet agenda 2020, vous l'avez pensé évidemment autour de la sagesse, mais encore.
Vous savez, comme c'est au jour le jour, un agenda c'est fait pour ça, c'est intéressant de se rappeler combien la vie est belle, combien elle est précieuse. Et en fait, cet agenda donne toutes les clés possibles pour pouvoir repérer ce bien qui existe au lieu de se lever du mauvais pied.
Sans oublier de méditer, parce qu'il y a un deuxième livre pour vous retrouver, Secret de méditation. D'ailleurs, vous ajoutez, méditer, c'est contempler la lumière et la paix en soi. Vous l'avez dit et exprimé à travers cette date, le 5 octobre 1989. Toujours aux éditions d'Angle, je pensais à une question comme ça. Au fond, tout le monde peut méditer, n'importe où, n'importe comment, où il faut
méditer,
être
préparé. Tout le monde peut méditer, il suffit quand même de s'y entraîner, de savoir pourquoi on veut méditer.
Merci Davina d'être venue ici à Europe 1 pour nous raconter cette date que vous avez choisie, le 5 octobre 1989, Merci. Le prix Nobel remis au Dalai Lama. À bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Et c'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR, célébrer les 70 ans de Paris Match en participant au 45e Tour du Monde en jet privé. Info sur tmrfrance.com.
Mon cher Lionel Rousseau, je vais vous proposer un sujet de méditation.
Allons-y, je vous écoute François.
L'OM gagne, Paris perd, vous n'allez pas me croire.
Non, impossible.
Impossible.
C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Marseille a gagné en effet tout à l'heure contre Lille sur le score de 2-1. Hier, le Paris Saint-Germain a été battu par Dijon 2-1. Dijon, lanterne rouge de la Ligue 1. On va en parler dans nos grands débats ce soir. Est-ce que le Paris Saint-Germain se fiche de la Ligue 1, ne la respecte pas en choisissant ses matchs et en étant vraiment pas bon contre Dijon? Et puis
c'est à se demander, même Lionel, si c'est pas la deuxième lame de l'humiliation marseillaise que Paris voulait aujourd'hui déployer.
En effet, on peut dire que tout le monde peut battre le Paris Saint-Germain, sauf Marseille, tout simplement. Marseille qui s'est relancé en tout cas aujourd'hui à domicile avec une victoire contre Lille 2-1. Un petit peu de réussite, mais une belle deuxième mi-temps. On a l'impression que Marseille se relance, en tout cas remonte provisoirement sur le podium de la Ligue 1. On va en parler. Entre autres choses, on évoquera d'autres sujets aussi, notamment la réussite de Brest en ce moment. Et puis petite information pour nos matchs multiplex, Nîmes-Rennes sans doute reporté à cause des pluies diluviennes.
Et de la vigilance que Météo France a déployée, vigilance vent sur 12 départements ce soir. On va vous écouter évidemment, comme tous les samedis, avec passion, mon cher Lionel Rousseau. Et puis nous, Marlène, nous, c'est fini.
Mais oui, on se retrouve
heures.
Demain.
C'est pas si vite, hein.
Ça va très très vite avec vous.
Et on se retrouve demain soir, 18h.
18h.
Hein, même heure, même punition. À demain à tous.